We are about to begin. Please take your seats. Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente de la Coalition, Monsieur le Président des Coalitions, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier la Présidence des Coalitions européennes pour avoir pris cette initiative et pour qu'on puisse ensemble promouvoir la diversité culturelle comme on le fait d'ailleurs depuis très longtemps. Et c'est pour moi toujours un honneur de pouvoir vous accueillir dans la maison des citoyens européens, eux, et qui portent la diversité culturelle. Vous le savez beaucoup mieux que moi que l'unité européenne n'a jamais été synonyme d'uniformité et la diversité n'a jamais été synonyme de différence irréconciliable, mais ces convictions fortes, nous les portons, nous les affirmons, nous les réaffirmons si de besoin en était et il en est de décennie en décennie. Parce que, tout simplement, les diversités culturelles font partie de notre patrimoine culturel immatériel et l'immatériel est la source et le fruit d'actions vivantes qui s'inventent, qui s'entendent, qui s'écoutent, qui se ressentent, qui se lisent et qui s'observent aussi. Et nous sommes ici justement parce que nous refusons une standardisation des expressions culturelles. Nous sommes ici parce que nous refusons que les potentialités du numérique soient accaparées à des fins mercantiles au détriment des créateurs. Et nous sommes ici pour construire ce que j'appellerais un lien vertueux entre la création et le numérique. Je ne parle depuis un certain moment plus de révolution numérique, parce qu'elle est derrière nous, la révolution. Nous sommes maintenant dans l'ère numérique, qui est une ère riche en potentiel et lourde en enjeux. Les nouveaux outils numériques ouvrent des opportunités considérables pour l'échange et en même temps construisent de nouvelles barrières. Et c'est le rôle des politiques de garder le champ culturel ouvert et de soutenir les expressions culturelles. Et c'est la raison pour laquelle le maintien de la territorialité des droits est un impératif, parce qu'il structure et garantit le haut niveau de financement des œuvres en Europe. Permettez-moi dans ce sens-là, et en tant que luxembourgeoise, de faire un petit cocorico luxembourgeois. Parce que cette aide au cinéma, cette élimination du principe de l'aide d'État, a permis au cinéma luxembourgeois d'avoir une vraie vie. Le film d'animation Croque Blanc est actuellement en compétition au Festival de Sundance. Il a été coproduit, comme la plupart des films luxembourgeois, avec la France et les États-Unis, le Film Fund luxembourgeois ayant soutenu le développement et la production de l'œuvre, et The Breadwinner, une coproduction luxembourgeoise avec le Canada et l'Irlande, a été sélectionné pour les Oscars. Donc vous voyez ce que, même dans un petit pays, ce qu'un film fund peut réussir. Et je crois que c'est un exemple qui nous donne du courage. Oui, nous avons les créateurs. Oui, nous avons les œuvres. À nous de faire de sorte à ce que ces œuvres puissent continuer à vivre, continuer à être vues. Et nous aborderons cet après-midi les questions liées à l'accès au marché, à la transparence, à la juste rémunération des artistes, à la juste répartition des contributions financières à la création et à la juste représentation de nos œuvres européennes et l'application d'un principe qui figure dans la Convention de l'UNESCO de 2005, hein, et qui parle de la neutralité technologique s'appliquant à tous les supports. Et ce n'est pas gratuit. L'Europe doit assurer les conditions d'un jeu concurrentiel plus juste et plus durable entre tous ceux qui diffusent les œuvres, et elle doit contribuer à assurer aux œuvres une exposition la plus large possible, dans les salles, sur les chaînes, sur leur déclinaison numérique et sur les services à la demande. Voilà ce que nous allons discuter, Madame le Commissaire, aujourd'hui avec des experts qui veulent la diversité, c'est-à-dire leur culture et celle des autres, parce que c'est ça qui fait l'Europe. Alors, merci d'être venu. Maria et moi, nous nous connaissons depuis de très longues années, et je sais que tu apprécies surtout le cinéaste Robert Wise et ses 3 P qu'il met au cœur de sa démarche artistique, la passion, la patience et la persévérance. Hein? Je l'ai appris chez toi, ça. Eh bien, ces 3 P aussi caractérisent notre commissaire. Hein? Passion, patience, persévérance. Et c'est de ça dont nous avons besoin. La première bagarre sera maintenant celle du programme Média, dans le cadre des perspectives financière multiannuelle. Tu auras besoin des 3 P et nous serons derrière toi pour t'aider à ce que ces 3 P aident la création, le cinéma et la diversité culturelle. La parole est à toi.
Merci beaucoup, Viviane. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier. Je veux dire à quel point c'est un honneur aujourd'hui d'être parmi vous, d'être avec vous, parce que ce qui nous unit, c'est une cause, et une des causes les plus nobles, sauvegarder la diversité culturelle et défendre la place de la culture. Chère Viviane, je voudrais te remercier, d'une part pour la co-organisation de cet événement, mais surtout pour ton engagement qui montre à chaque fois combien c'est important de garder l'énergie, de défendre nos valeurs et nos principes. Tu es un exemple pour moi. Je n'ai beaucoup appris. Et je voudrais tout simplement dire merci pour l'inspiration, pour le soutien et pour l'encouragement. Ensuite, je voudrais immédiatement passer dans le vif du sujet. Dans cette période de populisme croissant aux quatre coins du monde, la culture est un pilier qui n'a jamais été aussi essentiel pour soutenir nos valeurs et nos droits fondamentaux. Et au-delà de nos horizons propres, l'Europe apporte une contribution majeure à la diversité culturelle mondiale. La culture y constitue le tissu de nos vies et de nos sociétés. Elle façonne notre identité et nos modes de pensée. Elle nous donne un sentiment d'appartenance à une communauté, tout en nous permettant de nous projeter plus facilement dans le futur. Comme le disait Claude Lelouch lors des dernières rencontres de Dijon, la culture permet à l'homme européen de ne pas avoir peur de ses peurs. C'est pour cette raison que dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la création de l'Union européenne, les dirigeants des 27 États membres et des institutions européennes ont signé la Déclaration de Rome. Nous nous sommes engagés à œuvrer en faveur d'une Union européenne qui préserve notre patrimoine culturel et favorise la diversité culturelle. En associant culture et numérique, cet événement est une occasion fantastique de prouver que le numérique n'est pas un vecteur de pessimisme ou de méfiance, mais qu'il est une source d'unité, d'optimisme et de prospérité. Lorsque le numérique rencontre la culture, il libère une formidable énergie positive qui resserre les liens non seulement entre les sociétés, tout en nous forçant à aller de l'avant et à regarder vers le futur. Le numérique est le principal moyen dont nous disposons aujourd'hui pour créer, combiner, promouvoir nos cultures pour apprendre les uns des autres et pour œuvrer ensemble vers un avenir meilleur. Plus concrètement, au travers de la politique numérique, je poursuis deux objectifs. D'une part, permettre aux cultures européennes et au secteur créatif de pleinement prendre part et tirer parti de l'ère numérique. On ne parle plus de révolution numérique. D'autre part, s'assurer que le numérique favorise un environnement propice à l'épanouissement de la création culturelle et profite à tous, et non pas à un petit nombre. Dans cette perspective, dès que j'ai été nommée commissaire chargée de l'économie et de la société numérique, j'ai commencé à travailler sur la définition de notre stratégie que nous avons appelée Digital for Culture, numérique pour la culture. Cette stratégie tire d'abord son énergie de l'année européenne du patrimoine culturel choisie pour cette année 2018. C'est une occasion unique d'associer culture et numérique. Nous devons exploiter ce potentiel de transformation que la culture nous offre et l'amplifier d'une manière que seul le numérique peut faire pour notre économie, notre société et notre futur. La stratégie numérique pour la culture est construite sur 6 piliers. Le premier pilier est l'accès, la garantie d'un accès à une culture plus large et démocratique. Nous voudrions faire des contributions pour accroître l'audimat des créations européennes en encourageant des modèles innovants de distribution et de collaboration étroite entre les différents intervenants, artistes, producteurs, agents de vente ou distributeurs. Le deuxième pilier est la promotion, la commercialisation et la mise en valeur de notre patrimoine culturel dans tous les secteurs d'activité. Profitons de cette année européenne du patrimoine culturel pour rendre davantage visible l'offre dont l'Europe dispose. Je pense notamment à l'organisation d'une semaine européenne du film, ciblée sur des films du patrimoine européen et disponible à des fins éducatives dans les écoles des différents États membres. Nous envisageons aussi la création d'un répertoire en ligne offrant une possibilité d'accès à l'échelle de l'Union européenne à un catalogue de films européens. Je serais ravie d'avoir vos réactions sur cet aspect-là. Dans une première phase, le répertoire rassemblerait une liste des œuvres cinématographiques européennes, essentiellement destinées aux professionnels, tels que par exemple les distributeurs, les exploitants de salles de cinéma ou les prestataires des services de vidéo à la demande dans chaque État membre. Il serait ainsi utilisé comme un outil B2B, permettant aux professionnels intéressés de savoir où les films sont actuellement exploités et accessibles dans les différents territoires grâce à un moteur de recherche associé au répertoire. Dans une deuxième phase, ce répertoire pourrait être relié à une plateforme centrale disponible pour tout utilisateur, donc on passe de B2B à B2C, afin de l'informer des possibilités légales d'accès en ligne aux films sur un territoire donné. Je serais, comme je vous l'avais dit, vraiment ravie d'avoir des réactions sur ce projet-là. Nous nous sommes donné comme délai d'avoir le lancement au mois d'octobre. Quelque part, cette conférence, vous avez l'exclusivité. C'est la première fois que je le partage un peu plus comme ça en public. Mais c'est, comme je l'avais dit au tout début, parce que j'ai le respect de votre travail de tous les jours et parce que c'est de vous qu'on peut avoir la vraie réaction. Est-ce que nous sommes adéquats avec cette proposition? Qu'est-ce que nous devons veiller à ne pas faire? Et qu'est-ce qui pourrait vraiment constituer la valeur ajoutée d'un tel pas en avant? Le troisième pilier est la production et la distribution du numérique à l'ère de la convergence pour encourager l'expérimentation de nouveaux types de narration en réalité virtuelle, ainsi que d'expérimentation utilisant les big data et favorisant un lien plus fort entre contenu et audience. Nous devons y penser. Nous devons y travailler. Le quatrième pilier et la valorisation des talents et des compétences. Il pourrait s'agir de prévoir, par exemple, de nouveaux programmes de mentorat de jeunes professionnels par des professionnels plus expérimentés. De nouveau, ce n'est pas que des idées qui sont nouvelles, mais on aimerait leur donner de la visibilité, de la valeur ajoutée, de créer plus de synergies. Le cinquième pilier est l'accès au financement, où nous explorons la possibilité de créer un instrument financier sur une base publique-privée pour soutenir le développement de projets à grande échelle. Et enfin, sixième et dernier pilier concerne la coopération internationale, où nous nous attachons à favoriser le pouvoir d'influence de l'Union au-delà de nos frontières communes, en assurant par exemple la promotion de plus amples projets de développement liés à l'audiovisuel. Donc, comme vous avez vu, cette stratégie comprend un certain nombre d'initiatives et d'événements pour lesquels la coopération et la participation du Parlement européen est aussi essentielle. Cette stratégie numérique pour la culture va accompagner et soutenir les débats sur les moyens de soutenir les industries créatives et les activités liées au patrimoine culturel dans le cadre du prochain programme de recherche et d'innovation, ainsi que dans l'avenir du programme Média. Mais je peux dès à présent le dire, et j'ai eu l'occasion de le faire pendant plusieurs mois, je défendrai le budget du programme Média jusqu'au bout. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de montrer à quel point ce programme a été une vraie success story. Nous avons des succès, grâce à ce programme. Certes, on va devoir repenser certains instruments. Il y a beaucoup trop de schémas, d'insister sur d'autres objectifs plus stratégiques. Mais en ce qui me concerne, le programme Média aura toute sa place, la place qu'il mérite dans le budget de l'Union. Donc, aujourd'hui, nous avons effectivement débuté l'évaluation du programme Média tel qu'il existe. Nous discutons sur la forme que le programme va prendre au-delà de 2020. Mais encore une fois, il est impressionnant de voir comment le programme Média a permis à un si grand nombre de créateurs de mettre en avant leur liberté artistique, leur liberté d'expression, et ainsi atteindre des millions de citoyens bien au-delà de l'Europe. Donc je vois le futur programme Média comme une évolution à l'accord actuel dans lequel les deux objectifs stratégiques généraux que sont la diversité culturelle et la compétitivité de l'Europe restent essentiels. Et ceci complète le travail que nous avons déjà fait pour motiver et récompenser la création à travers un certain nombre de réformes. Et vous allez en discuter aujourd'hui à travers la réforme du droit d'auteur, la réforme de la directive sur les services de médias audiovisuels. Nous le savons à quel point tous ces sujets sont à la fois complexes et importants. Mais l'objectif est de permettre aux industries culturelles de toucher de nouvelles audiences, de s'adapter aux réalités de l'ère numérique et de profiter pleinement du marché unique numérique. Pour ce qui est des différents dossiers législatifs, je ferai juste quelques mots sur chacun d'eux. La réforme du droit d'auteur. Le défi pour la réforme du droit d'auteur à l'heure du numérique est connu. Les usages et les technologies évoluent sans cesse. L'accès aux données joue un rôle de plus en plus important dans l'économie et de nouveaux types d'acteurs distribuent des contenus. Le droit d'auteur doit continuer à être un outil approprié pour motiver et récompenser la création. En reconnaissant et valorisant la création et les investissements dans cette création, le droit d'auteur contribue de façon déterminante à la diversité culturelle. Et ceci est dans l'intérêt de tous, et pas simplement des industries culturelles et créatives qui représentent déjà des millions d'emplois et une part non négligeable de PIB de l'Union européenne. Nous devons d'ailleurs le dire plus souvent et le montrer de manière encore plus visible. Je me réjouis de quelques d'autres règlements aussi qui ont été adoptés. Et ici, je voudrais m'arrêter juste quelques secondes sur le règlement sur la portabilité des contenus. À partir du 1er avril 2018, nous allons voir cette valeur ajoutée que nous avons voulu pour les citoyens se concrétiser. Après le 1er avril, on va permettre aux citoyens européens de continuer à bénéficier de leurs abonnements à des services de contenu en ligne depuis n'importe quel pays de l'Union européenne. Je me réjouis également de l'adoption des instruments de transposition du traité de Marrakech. Un grand merci au Parlement européen pour le soutien unanime la semaine dernière à Strasbourg. Ceci permettra à des millions de personnes malvoyantes d'accéder plus facilement à des livres, d'accéder plus facilement à des contenus. Je ne peux pas omettre aussi la directive des services audiovisuels. Il s'agit d'une proposition essentielle dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique. Et l'objectif de notre proposition est d'adapter la réglementation à un nouvel environnement audiovisuel dans lequel les spectateurs, et notamment les jeunes, migrent de la télévision traditionnelle vers un monde en ligne. Pour nous, le principe du pays d'origine devrait rester la pierre angulaire de la directive. C'est ce principe qui fait du marché unique numérique une réalité et il convient de le maintenir. Notre proposition vise à renforcer les obligations des opérateurs de vidéo à la demande sur la promotion des œuvres européennes. Je suis de près les trilogues. Bientôt aura lieu le 5e. Merci du Parlement européen pour ce soutien-là. Comme vous le savez, dans notre proposition initiale, les œuvres européennes, le quota était à la hauteur de 20%. Les deux co-législateurs, le Parlement et le Conseil, se sont mis d'accord sur 30%. En revanche, ce serait vraiment intéressant de savoir vos réactions par rapport à ce type de changement. Enfin, je voudrais conclure. Pour moi, la stratégie numérique pour la culture, le programme Média, le paquet droit d'auteur et la directive sur les services des médias audiovisuels, tous ces éléments sont essentiels pour que le mariage entre la culture et le numérique soit une réussite qui s'inscrive dans la durée. Et je me suis personnellement investie dans cette tâche car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la compétitivité du secteur du contenu européen, c'est la pérennité de notre modèle européen, de nos sociétés mêmes qui se fondent sur la diversité et sur les valeurs démocratiques. Donc aujourd'hui, c'est avec le numérique que nous pouvons gagner cette bataille d'une création culturelle de qualité, diverse et accessible au plus grand nombre, dont plus que jamais l'Europe a besoin. Je vous remercie pour votre attention.
Madame le commissaire, tous ceux qui sont ici pour la première fois et vous rencontrent pour la première fois n'ont pas été déçus. Parce que non seulement vous avez fait une analyse de tous les dossiers qui sont sur la table, de tous les dossiers que vous voulez faire avancer, et relativement vite, parce que vous avez raison, le temps presse, mais vous nous avez fait aussi un cadeau en nous annonçant aujourd'hui que vous êtes en train de développer un modèle innovateur de distribution. Eh bien, je suppose que dans notre deuxième table ronde, ce cadeau va être amplement analysé et valorisé aussi à sa juste valeur. Nous vous aiderons pour que ce cadeau devienne un cadeau pour les citoyens européens, pour qu'ils aient un meilleur accès à leur patrimoine culturel. Un tout grand merci aussi pour vos mots qui venaient du cœur et votre analyse de ce que la diversité européenne est pour les citoyens européens et cette belle citation que vous avez soulignée de Claude Lelouch, la diversité culturelle des Européens leur permet de ne pas avoir peur de la peur, des peurs. C'est beau et je pense que ça doit être véritablement le leitmotiv sur lequel nous travaillons. Nous travaillerons avec vous. Merci beaucoup. Merci pour l'impulsion que vous avez donnée à la journée d'aujourd'hui.
Merci. Merci beaucoup, Viviane. Merci.
Welcome again, everyone, and thank you for coming to join us in so many numbers. We really appreciate it because we also know you have come from far and wide. Okay. I'd like to reiterate the thanks of Madame Reding to Commissioner Gabrielle for joining us today and for being so heartily engaged in the agendas which are close to all of our hearts and activities. And just to say again, to hear of new proposals, which I'm sure we are all digesting and are going to be discussing later, we are much appreciative. And one gets the feeling of a commissioner really very, very engaged in the important legislations that we are all living through and trying to influence this coming year. I'm Carol Tung, I should have said that at the beginning, Chair of the European Coalitions for Cultural Diversity. It's an umbrella organisation of 13 national coalitions of diverse cultural organisations. Our primary mission is to promote the principles of the 2005 UNESCO Convention, which is ratified by the European Union and indeed by individual member states. Do join us. I hope you can all find a seat. Thank you. I'm also a former MEP and former Socialist Group Coordinator for Culture and Media. So some of our debates I have been following and been actively involved in for the last 20 or more years. Today we're going to debate in this panel within the context of the Copyright Directive about creators, rights holders and cultural professionals' wishes, among which is remuneration for their work online and improvement in their relationship with platforms, for example. We've heard and we know that this is a year of important decisions for the future of our creators, creative industries, and for cultural diversity, which is so important in that it underpins our values, identities, and in fact the cohesion in our societies, which in fact underpins democracy itself. If we cannot express ourselves, if we cannot see ourselves and our stories on screen, in our books, through our music, our poetry, how can we understand each other? How can we develop public policy that we all need and depend on to thrive as human beings? We're very polite, I think, We all call it the value gap. Some might use stronger language. I would say it's a maldistribution of internet revenues. That doesn't come from me. That once came from a very big telecoms operator, believe it or not. Jonathan Taplin, in his recent book, Move Fast and Break Things, has estimated that the creative industries, creators and professionals, transfer every year $50 billion a year to platforms in value. We can pause and reflect on that. Authors, for example, in the UK earn on average no more than the minimum wage, £12,000 a year. We have media and entertainment workers who claim that they have to often sign take-it-or-leave-it contracts without royalties or fair share of revenues. We have traditional television channels who are now having to compete for talent, for rights, with new platforms, while simultaneously losing a lot of their advertising income. We hear from musicians and the music sector that they believe they receive only a tiny proportion of what some platforms make from online advertising. In this session, I hope we'll be exploring different ways to ensure that creators, producers, and rights holders of cultural content and performers and artists are properly protected and remunerated. I hope our speakers can offer some solutions that we need to put forward to achieve a balance in the relation between creators, cultural workers, and online platforms. So I will try and introduce everybody. Jean-Paul Salomé, first of all, who is a recognized French screenwriter, director, and producer. He's worked with Claude Lelouch, and he has released many feature films such as Les Femmes de l'Anne, with Sophie Marceau in the leading role, et Je fais le mort in 2013 with François Damiens. He has also been president of Unifrance from 2013 to 17. Helge Trüppel, member of European Parliament from Germany and the Green Party, who needs very little introduction in this House, who since 2004 has been vice chair of the European Parliament's Committee on Culture and Education, and someone in this House who has amazing understanding of the challenges of the creative sectors in Europe and has always been an enormous supporter of creators and creative workers. Helen Smith, Executive Chair of Impala, an independent music companies association. She is helping put thousands of independent companies and artists on the map of Europe by leveraging their collective strength. Nicole Schulz, known to everyone here, I'm sure, Director of EPO Artis, an organisation that represents and defends 36 European performers collective management organisations from 26 different countries. And finally, but not least, Anne Bergmont-Tahon, Director of the Federation of European Publishers, an umbrella organisation of book publishers' associations in the EU. The FEP represents 29 national associations of book publishers of the EU and of the European Economic Area. And again, last but not least, I'm delighted that Giuseppe Abamonti, Director of Media Policy at DG Connect, has agreed to join us today, who I would like to bring in towards the end after everyone has spoken, so he's able to not only give his perspective but also respond to what he's heard. So I'd like to start, if I may, Jean-Paul, si je peux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, les auteurs audiovisuels, attendent des plateformes, mais autre chose aussi, si vous voulez. Merci.
De l'argent, déjà. Non, mais de l'argent pour tourner nos films. Voilà. Non, je reprends tout à l'heure la citation qu'a mise en exergue Madame Reading à propos de Robert Wise sur définissant la vie d'un cinéaste qui est faite de passion, de patience et de persévérance. C'est formidable, mais il faut avoir les moyens de vivre de sa passion, il faut avoir les moyens d'être patient, et il faut avoir les moyens de persévérer. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'industrie en France et en Europe et dans le monde évolue très très vite et qu'il est normal de réfléchir à comment faire évoluer la rémunération des auteurs par rapport à ces évolutions techniques et de diffusion des films, de nos films ou de nos œuvres audiovisuelles. Pour parler du système français qui a énormément de vertus, Il a eu cette vertu première de rétribuer les auteurs pour leur travail via des minimums garantis quand on écrit, quand on tourne un film, mais pas seulement, vu qu'il y a eu des droits d'auteur sur la diffusion de ces films sur, à l'époque, la télévision et d'autres systèmes. Voilà. Aujourd'hui, ça évolue parce que les télévisions classiques, hertziennes ou privées, comme chez nous Canal+, voient leurs audiences s'effriter du fait qu'il y a une proposition énorme sur d'autres plateformes, et qu'il est normal, non pas d'augmenter ses revenus, mais au moins de les compenser par les nouveaux canaux qui arrivent et qui sont les plateformes. Donc je pense qu'il est absolument légitime pour les auteurs de se dire que quand leurs films sont diffusés sur cette plateforme, en dehors du prix qu'ils sont payés et qui revient en général aux producteurs, ils aient une rémunération de leur travail. Ça me paraît important, d'abord parce que c'est lié au marché, c'est-à-dire si votre film est acheté et qu'il est diffusé, c'est qu'on espère qu'il va intéresser des spectateurs, donc c'est pas, on ne rentre pas dans un système de subvention, c'est votre œuvre a une valeur, a un potentiel public que Netflix, Amazon ou n'importe quel facteur estime vu qu'il l'achète, et à partir de là, il est diffusé. Et s'il y a diffusion, je pense qu'il est normal que le créateur de cette œuvre ou les créateurs de ces œuvres soient rémunérés d'une manière ou d'une autre à une juste valeur. Voilà, donc c'est une compensation et un système qui change et qui, je trouve, dans ce cas des plateformes, est vraiment connecté au public. C'est ça que je trouve important. C'est pas, on accuse souvent le cinéma français, par exemple, d'être extrêmement subventionné, mais là, ce n'est pas de la subvention, c'est au contraire, c'est relier une œuvre à un public donné. À une époque, il y avait le DVD, la vidéo, ça n'existe plus. On nous dit que le nouvel Eldorado, c'est la SVOD et ses plateformes. Eh bien, trouvons aussi des moyens de faire que ce qui s'appliquait à un moment donné à la vidéo ou à d'autres diffusions hertziennes, etc., glisse progressivement vers ces nouveaux moyens de diffusion qui existent et qui sont ceux de l'avenir et ceux qui progresseront. Parce que, en étant un peu pragmatique et logique, on voit bien que la diffusion des films en salle, même si en France on y est assez verni par rapport à ça, mais en tout cas en Europe, est de plus en plus difficile. Ça, c'est l'autre débat, mais il faudra en parler à un moment donné, c'est que la diffusion des œuvres à travers l'Europe réduit quand même globalement beaucoup face aux mastodontes américains et à d'autres cinématographies qui émergent, et que par rapport à ça, il y a vraiment quelque chose le seul business qui puisse encore progresser, c'est le business qui se fait sur ces plateformes. Voilà. Donc entre le marché, les marchés nationaux et les marchés internationaux qui deviennent compliqués pour les œuvres européennes, mais pas seulement pour les œuvres françaises, mais pour les œuvres européennes, je pense que mettre ces films et ces œuvres audiovisuelles sur ces plateformes de demain demande une juste rémunération. Parce qu'un auteur, ça vit aussi entre des films. Hein. Ça ne s'arrête pas de vivre, ça rentre pas dans, on ne le met pas dans un congélateur et on le ressort 2 heures après. Un réalisateur, quand il a la chance de tourner un film tous les 2, 3, voire 4 ans, qui est déjà une bonne moyenne, tout le monde n'est pas Woody Allen, je veux parler de son œuvre cinématographique, en tout cas dans sa cadence, ou d'autres, il y a, voilà, la vie d'un cinéaste, c'est un film tous les 3 ans. Et ce qui veut dire que la période où il est salarié en tant que metteur en scène, réalisateur ou même auteur, elle est extrêmement courte, et qu'à partir d'un moment, il faut quand même bien un temps pour avoir des envies de sujet, commencer à les travailler avant de tout de suite trouver un producteur, de l'argent pour financer les écritures. Je m'estime relativement privilégié parce que j'ai eu la chance de faire certains films qui ont marché. Du coup, on me paye quand je travaille et même quand j'écris. Mais il y a quand même des moments où je dois trouver des sujets, lire des bouquins, rencontrer des auteurs, et ça, personne ne me paye. Et ce qui me paye à ce moment-là, ce sont les droits d'auteur que je touche sur la diffusion de mes films. Je faisais un petit calcul comme ça au moment de faire mes déclarations d'impôts. Je pense qu'en gros, les années où je ne tourne pas, la proportionnalité de mes salaires venant des droits d'auteur sur mes œuvres diffusées est de 30 à 40%. Voilà, ce qui est quand même un certain chiffre de revenus pour vivre. Voilà. Donc voilà, je trouve que toutes ces choses mises à la suite font un faisceau qui me semble tout à fait légitime pour les auteurs. de se dire que les futures plateformes qui vont arriver ou qui sont déjà là, évidemment, comme Netflix qui diffuse des films en France, mais qui vont bientôt diffuser nos films sur les plateformes italiennes, espagnoles, allemandes, à l'Europe et même plus loin parfois quand on a de la chance, en tout cas au niveau européen c'est sûr, il n'y a aucune raison que ces plateformes ne payent pas justement, en tout cas aux sociétés d'auteurs italiennes, espagnoles, etc., les droits de ces diffusions-là. Parce que qu'ils achètent les films aux producteurs, c'est très bien. Mais vous savez que nous, auteurs, pour revoir remonter des recettes de toute la chaîne de la production, c'est faut avoir ou du courage, ou des bons avocats, ou des énormes succès. Voilà. Ce qui arrive, et ça arrive parfois, mais c'est quand même extrêmement rare. Voilà. Donc je pense que cette rémunération-là, elle est stable, efficace, transparente, et qu'à partir de là, il n'y a aucune raison d'expliquer. Enfin, en tout cas, ça me paraît très facile d'expliquer à ces nouveaux entrants cet écosystème qui permet aux œuvres de venir. D'autant que cet écosystème, il est totalement intégré dans les réflexes de nos producteurs nationaux. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vous payent une somme parce que vous toucherez à la diffusion sur Canal+, ou sur M6 en France, ou sur, nous, déjà certaines chaînes européennes. Ils savent très bien qu'on touchera de l'argent. Voilà. Si tout d'un coup ces rémunérations ne s'stabilisaient pas, diminuaient ou étaient supprimées, ce serait relativement dramatique. Il y a peu de corps de métier ou de profession à qui on annoncerait comme ça tout d'un coup la baisse de revenus de 30 à 40% dans l'année. Quand même. C'est assez violent. Après, on peut perdre son métier, ne plus avoir de revenus du tout, ce que je comprends. Mais en tout cas, à métier stable il y a peu de métiers dont on baisse la rémunération. Bon, voilà. Donc, en tout cas, je trouve ça capital. Il faut se battre. Je pense que les auteurs européens doivent se battre pour ça. Et au-delà de l'argent, ce que je trouve vertueux, c'est que c'est relié à une offre et à quelque chose qu'on appelle de marché, c'est-à-dire votre film est diffusé. Voilà. C'est pas, on ne va pas déposer un dossier pour avoir une subvention française, européenne, etc. Ça fait partie d'un business et il n'y a pas de raison que ce business ne rémunère pas les auteurs. J'espère que j'ai été clair.
You started with talking about passion, and that was a passionate defence, I think, of equitable remuneration. And I presume you're referring to the copyright directive. Nicole, what are performers' expectations? What challenges are they facing when their works are disseminated online?
Thank you, Carol, and thank you for the invitation to contribute. We're always very keen on contributing on any debate that involves around the better distribution of the economic value. And to those three P's, we would like to add a fourth one, and that's P. I think Jean-Pierre will agree with me there. So we have a similar point of view, the audiovisual authors and the performers. We see that, of course, if we look at the acquis, that the primary goal of the EU legislator has always been to protect performers and to ensure that there is a reward for them at the end of the day. The same has also been the case for on-demand exploitations of their recordings or performances. Performers have been granted in 2001 an exclusive right, but unfortunately in practice it has not been as effective as Jean-Pierre, I think, also explained, for performers. We would like to have an improvement in that. The contractual practices are that performers are signing all the rights to the producer. That's the way the business works. It works well. There is no contractual freedom, because contractual freedom means that you can negotiate at arm's length. That's not always the case for performers who either have agreed to the terms that are being given, or their freedom is that they can choose to reject the contract and not work And not have their future, their new engagement. So the majority of performers will sign a contract for one-off fee, and they will not have any further additional remuneration for on-demand use of their performance. So, for as Jean-Pierre's already explained, we have a growing market, and we would like that performers take a share in this, and that they are able to earn a decent living from that. We've had, of course, a lot of hopes with the copyright directive and the discussions of the Commission of including a chapter on fair remuneration. But we've been quite disappointed. In particular, with the provisions on Article 14 to 16, because they are very weak and, in essence, will not mean additional remuneration for performers. For transparency, it's quite clear, it's very nice as a toolbox, general toolbox, but transparency for the majority of performers means very little because their rights are transferred, so whether they know how much money is made afterwards is irrelevant to them. On Article 15 for the contract adjustment, here again, the Commission makes the assumption that performers will be happy to go and challenge their producer in court, which is not the case because it also can have a negative impact on any future engagement. And it also means that you have to be prepared for a very lengthy and costly court procedure, which most performers were not willing to take. So, of course, these articles can be further improved, and we've made, as part of the AIPO Artists Works Together with three other performance organizations, FIM, FIA, and IO, so it's a coalition representing audiovisual and audio performers, from featured artists to non-featured artists. And we've made some concrete proposals on how to improve it, but the bottom line is still that these provisions will not achieve a remuneration for performers for on-demand use. And it's for that reason that we've put forward a proposal to include an unwaivable right to remuneration, which would be paid by the platforms and would be subject to compulsory collective management. And it's not something we invented ourselves. It's a copy-paste from an EU directive, the rental directive, which has been very useful at the time when there were videotapes. In Germany, there were several millions of euros going to performers, which is now reduced by 80% because there are no longer videotapes in Germany, or very little, if any. But the system itself has worked very well. It's also, in a similar way, working for radio and TV broadcasting. It works very smoothly with collective management. There is one point of call, and that's so. This system of unwaivable remuneration is what we would also like to see applicable for on-demand users. Now, we are very pleased with the efforts of the European Parliament, who have understood that talking about European culture and cultural diversity also means supporting those people down the value chain and making sure that they can earn a living. In particular, Mrs. Trüppel and the work of the Culture Committee, who have already adopted this to insert this mechanism in the Copyright Directive, also the Industry Committee. There have been several amendments in the Legal Affairs Committee, so we're hoping that here now the discussions will also lead to a compromise ensuring performers will receive a fair remuneration in the years to come.
Thank you very much, Nicole. It's very interesting to hear of actually how things work out in reality for, in the case of your members, artistes, interprètes, performers, and how you've clearly been talking to members of this parliament in the key committees and in many cases have heard your case understood. And in that sense, I'd like to turn to Madame Trupel, who has been a very loyal ally of the sector and of all those who work within it. I see you clutching a magazine in...
I will show it to you in 1 minute.
And I think when you see it, you will understand the direction in which Madame Trupel would like to talk. But I would ask if you could reflect on what you heard so far and the sense of how does the Parliament help to create a fair partnership and a balanced relationship.
Thank you. I start with a general approach, what I want to achieve politically with the copyright reform and very general with the regulation of smart digital capitalism, what it's about, and how to shape globalization. And it's absolutely crucial to have progress on that when we have the upcoming elections in March 2019. So it's The Economist. And the title is The New Titans and How to Tame Them. It's about Amazon, Facebook, and Google. So that are the new monopolies on whom we are talking and how to regulate them in a smart way. And it's very interesting that a liberal magazine like The Economist now calls for taming the giants. Some weeks ago, I had the New York Times, and on the first page, American researchers and influential people called, again, on the first page, that they have to regulate their own American new monopolies, which are much more powerful than the old ones, like Hollywood, Coca-Cola, AT&T, Verizon, and so on, and that they have to regulate artificial intelligence because it could be a disaster if there is no real democratic regulation of digital capitalism. That, for me, is the background for all the political things I want to achieve. And that's, of course, about better use of competition law. That means, and Vestager is doing it very bravely, our competition commissioner, because she is making the big giants and the digital ones and the analog ones, Starbucks and IKEA and European companies, of course, are included as well, to pay taxes in the European Union. Now, Google and Facebook announced to go back to the United States to invest there more, and the Americans are pleased, especially Trump, because he says, that's my tax reform about, they come back. But anyway, we have a market of 550 million people. They will not go away from Europe. And therefore, I think that is the one thing what we have to achieve politically. We have to tax them. And we have to impose as proud Europeans on the American monopolies our terms of trade. Next point, and that is copyright reform. We already, as you heard from Nicole, we voted last July on the CULT committee on the copyright reform. It's a quite good vote. Please have a look again, because everything what I want to achieve is done in this CULT vote. Please look at it and spread it. It's very helpful for the URI committee, what we did on the CULT committee. So what I want to achieve and what we achieved on the CULT vote is that we want a licensing obligation for the digital monopolies. If there is commercial use of copyright-protected press articles, that means it's not Creative Commons, they have to be obliged to license and to license and work together with the collective management organizations, which we reformed. I was the rapporteur. I know what I'm talking about. And then if there is a licensing obligation for cultural content, which is copyright-protected, uploaded by users, and not Creative Commons, they have to do the same. They have been to be obliged to license. That is our duty with the majority in the plenary here in the European Parliament to say to the American boys, Zuckerberg, Terry Brin, and Jeff Bezos, and the others, you have to pay if you use our content in the European Union. When we do that with the majority in the Parliament, then we don't need general filtering. We don't have any problem with the pirates' argumentation that we go for a censorship machine because we don't do it. Even the proposal of the Commission does not mean a censorship machine, but the pirates and other NGOs are misusing this point. I think they are mistaken, but it's a huge propaganda machine on the Internet. And therefore, I think when we can say, and that is my compromise with Pirate Julia Reda, they have to license for copyright-protected content, then we don't need general filters. That's, for me, a good solution, and the pirates can be happy. Google will not be so very happy, and they will say, oh, when you do that, then we leave the European Union, as we did in Spain with the press magazines. And then I say, okay, go to Russia, to China, to Saudi Arabia, do it with the authoritarian regimes, but then you can't tell us anymore, don't be evil, because then you are evil. So they have an image problem, and when you have a look at the advertisements at the moment of Facebook, in Germany, every day, all over the cities in the big newspapers, one-page advertisement, Google is improving, and Facebook is improving. They have got a problem. And I want to make the most of this image problem the digital monopolies are enjoying at the moment. So therefore, I think what we need is a very good narrative. The first one is make use of competition law, because we have competition law in the European Union. It's very much what we are doing every day. So we have to really make it work concerning the digital monopolies of the United States. And I'm very clear, I'm not anti-American. I only want smart regulation, because I'm a liberal, feminist, green politician, and therefore I want good regulation. Next point, as a narrative, what I want to achieve is, as a slogan, give back people control of the Internet, because they don't have it at the moment. Not take back control as a Brexitist, but from a democratic point of view, give back people control of the Internet. We urgently need it. We want to have a say on our digital platforms. So, and when we get that, then we can solve all the other problems. Then it's clear that with Article 11, for the copyright reform, we go for an obligation to license, not for an ancillary copyright. With the value gap, Article 13, we will make very clear that they have to pay, that we urgently need remuneration of our wonderful European creators, all of them writers, authors, musicians, filmmakers, screenwriters, all of them deserve a fair remuneration and a fair pay. And like Coca-Cola has to pay its workers, Google and Facebook and Amazon and Apple have to pay the creators as well. It's only the very old conflict between labor and capital, and we have to solve it in a clever way in the European Union. So, and therefore, it's clear with Articles 14 to 16, we want to bring creators in a better negotiation position, therefore we need reform of contract law and an unwavering right for remuneration, as Nicole said. I support it heavily, and I'm in the process of talking to Axel Voss, the rapporteur in URI for the copyright reform, to go for that. So far he is a little bit hesitant, like very often, but I hope that we will convince him, because it's only very reasonable to do it. And then my last sentence is, I think what we need is the readiness to deconstruct the freedom narrative of Google, because what they do is very much in their own capitalistic interest. Of course, they use the interest of us users, but not the users shall be tracked or they shouldn't, but the platforms must be responsible and they have to pay. That is the very crucial point. We don't sue the individual users, our kids in the schools, no. We make the digital monopolies pay, and that, I think, is a smart idea. And therefore, when they say, oh, what you do is a very stupid, old-fashioned regulation, then we say, no, it's very modern, because we urgently need it. We have to shape globalization and the digital revolution in order to put citizens in a better position, because we are concerned about the fate of European people. And then I say again, I would like to tell to Google, don't be evil, please show it to us. And last small story, before Christmas, the vice CEO of Google came to my office. Oh, Mrs. Trüpel, we heard you have some criticism about Google. Yes, sir, you are right. What do you want to achieve? And then I said, paying taxes, obligation to license, and take over responsibility on fake news and hate speech without endangering freedom of press and information and expression, because, of course, we want to have free information. Huh? Don't let them misuse this argument. They can do it with software algorithms and human beings, and human beings have to decide what is fake and what is not, and it's their business to pay for that because they are media companies of new type and not we as taxpayers. Make them pay. License, pay taxes, and pay for their responsibility. And then he said, this gentleman, vice CEO of Google, ah, Mrs. Trüpel, you are right. In the last decade, we made a lot of mistakes, and we are ready for remedies. Come on, join the club, Mr. Vice CEO of Google. It will be very difficult because they will do everything not to make to go for laws, but we need laws because otherwise they only go for a deal like with GEMA in Germany on a private level and nobody knows what is in this treaty. Therefore, for democratic reasons, I don't want to have private solutions. I want to have democratic political solutions because you are the citizens of the European Union. Thank you.
Thank you for your passion, Helga. Yeah, I would expect no less. And for also a raft of ideas, which I know, looking around the room, we are all busy digesting because it's not every day we hear all of those brave, brave ideas. Thank you very much, and I know we'll be coming back to them. I'd now like to ask Anne Bergman-Tahon. There's a specific policy in most European countries in the book sector. It's called a fixed price, a prix unique. Do you think it's sufficient protection going forward in the digital economy? Can you explain, for example, why it's been so positive, but also I'm sure we're keen to hear your views about the copyright directive too.
Merci et merci aux organisateurs d'avoir invité l'édition, la plus vieille industrie culturelle en Europe et dans le monde. Je voulais commencer par... Bon, la commissaire n'est plus là, mais je voulais commencer par dire une chose qui, je pense, s'applique à tous les secteurs culturels. C'est que la volonté de chaque auteur, mais aussi de chaque investisseur, comme les éditeurs, c'est que le plus grand nombre de lecteurs, d'auditeurs, de spectateurs aillent voir lire leurs livres, voir leurs films, écouter leur musique. Et donc, d'imaginer qu'il faille systématiquement trouver des moyens législatifs pour nous imposer des accès, notamment via, je reviendrai rapidement parce que je ne vais pas passer trop de temps sur les exceptions, mais les exceptions que vous êtes en train de discuter ici au Parlement européen, ça peut être une très bonne chose, mais c'est aussi extrêmement dangereux si ça rentre en concurrence directe avec, par exemple, le secteur de la librairie. Mais vous m'avez posé une question sur le prix fixe. Le prix fixe existe, la première législation, le premier accord sur le prix fixe, il a eu lieu en Allemagne et en France, c'est en 1980, à l'instigation de Jack Lang, que la loi, qui était la première loi sous la présidence de François Mitterrand, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, j'imagine, qui impose à tous les vendeurs de livres, qui sont en majorité des libraires, de vendre des livres avec un discount maximum. Alors, en France, c'est 5%. En Italie, c'est 15% parce que c'est l'Italie et qu'il faut un peu plus de flexibilité. En Allemagne, c'est pas de discount. Donc, on vend les livres partout au même prix. C'est aussi des longueurs différentes. Vous avez dit la majorité, malheureusement pas. Il y a un certain nombre de pays où il n'y a pas de système de fixation de prix. Mais dans la plupart des pays européens, c'est moins problématique parce que la concurrence n'est pas féroce au niveau des discounts. Elle est féroce dans un pays, le Royaume-Uni, votre pays. Et je vais vous donner un chiffre, moi, qui me glace à chaque fois que je le donne. Il y a moins de librairies au Royaume-Uni qu'à Paris, que dans la ville de Paris. Parce que il n'est plus économiquement possible d'avoir une librairie au Royaume-Uni et de penser qu'on doit gagner un peu d'argent, qu'il faut payer les murs et les salaires. simplement parce que les politiques de prix et de concurrence des grands acteurs est énorme. Donc, dans le monde du papier, on avait le prix fixe dans, grosso modo, le sud de l'Europe. Et bon, la Belgique, c'était une espèce de fantasme de beaucoup de politiciens d'avoir un prix fixe. Et maintenant, en Belgique, il va y avoir un prix fixe, mais il va y avoir un prix fixe flamand et un prix fixe francophone. Bon, ça, c'était pas la Belgique.
Normal.
Mais on est... alors, à l'heure actuelle, le marché du livre numérique se développe très lentement et plutôt plafonne pour le moment, mais je pense que c'est peut-être qu'un moment précis dans l'histoire du livre numérique. Mais il se fait que quand même, les éditeurs voient le livre numérique comme un possible futur. Ce sera au lecteur, pas au consommateur, au lecteur, aux gens qui nous lisent, de choisir la façon dont ils liront. Et donc, on a été confrontés à d'autres acteurs. Alors là, on n'était plus avec les hypermarchés ou les grandes surfaces culturelles. On était avec la première entreprise qui a décidé d'investir dans le livre. Le livre étant d'ailleurs le premier, pour eux c'est un produit je crois, le premier produit qu'ils ont vendu c'est Amazon. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleurs, je me vante toujours un peu, mais on a les meilleures métadonnées puisqu'on a l'ISBN depuis 50 ans. Donc c'était le plus facile pour eux de vendre du livre plutôt que de vendre d'autres produits culturels parce qu'il fallait pouvoir les catégoriser et le livre c'était simple. Et évidemment, Amazon, je les cite, mais bon, parce qu'ils sont de loin dominants sur le marché, c'est 95% du marché du livre numérique au Royaume-Uni, c'est Amazon.
Combien ?
95. 9,5. Donc, les éditeurs se sont posé la question avec un libraire qui vendait les livres à 1 euro, 1 livre sterling, 1 dollar. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Et ils ont pris un système qui existait par ailleurs avant, qui est le contrat d'agent. Donc en fait, le Amazon n'est plus un libraire, il est un intermédiaire. Et nous gardons la responsabilité de la vente et nous gardons la responsabilité du prix. Et donc, Amazon ne peut pas lui-même choisir sa politique de prix. Il est obligé d'imposer les prix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 2-3 ans, Hachette au Royaume... C'est un système qui existe assez globalement. Hachette aux États-Unis a refusé les conditions d'Amazon, qui étaient des conditions de discount absolument épouvantables. Et pendant 2 mois, Amazon a enlevé le bouton achat immédiat en dessous de tous les ouvrages d'Hachette, ce qui voulait dire que pour acheter un bouquin d'Hachette, il fallait cliquer 3 fois, peut-être mettre sa carte de crédit et donc faire en sorte que il y avait moins de lecteurs qui acquéraient des ouvrages. Et par ailleurs, on ne pouvait pas précommander les livres papier. On ne pouvait plus précommander les livres papier d'Hachette, on pouvait précommander les livres papier de tous les autres, mais pas d'Hachette. Mais Hachette, qui a la chance d'être un très grand acteur international, a pu tenir bon, et Hachette, Arnaud Nourry, le patron d'Hachette Livre, a eu la chance de compter sur le soutien de ses auteurs, qui, du coup, ont gagné beaucoup moins d'argent, parce que pendant ces 2 mois, ben on a vendu moins de livres d'Hachette, donc on a pu moins payer les auteurs, mais on a tenu bon. Donc, je veux dire, c'est possible, avec beaucoup de persévérance et de patience et de passion, de tenir bon. Notre secteur, on n'a pas les mêmes demandes que les secteurs, les gens qui ont parlé précédemment, parce que nous, on est encore... La majeure partie du chiffre d'affaires, elle est faite par des ventes. Et notamment, que ce soit les livres physiques ou les livres numériques, on les vend. Et on les vend aux lecteurs. On ne les vend pas tellement aux institutions, on les vend aux lecteurs. On a 96% en règle générale des livres qui sont vendus via des des libraires ou des grandes surfaces ou Amazon pour ne pas les nommer, mais donc voilà. C'est important pour nous de garder la vente parce qu'on n'est pas dans un système, parce que la lecture est un peu différente de la musique ou de l'audiovisuel. Bon, on essaye, hein, le streaming comme tout le monde, on essaye de voir où ça nous mène, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas encore. Et donc, pour finir et pour en revenir quand même à un débat qui occupe cette maison largement depuis quelques mois, il y a trois exceptions qui ont été mises sur la table par la commission. On pense que dans l'ensemble, ça allait dans la bonne direction. Il faut faire très attention qu'elle ne soit pas élargie et qu'elle ne mette pas en danger l'écosystème du livre. On a vu dans la musique la disparition des disquaires, qui a été, alors je ne sais pas, je ne suis pas une historienne de la musique, donc je ne sais pas à quel point ça a participé des problèmes que vous avez rencontrés dans la musique après. Nous, on a de la chance de disposer d'un réseau de libraires un peu partout en Europe qui est encore, qui est fragile, mais qui existe. Et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale d'un accès gratuit ou d'un accès via des exceptions au droit d'auteur. Ça n'est pas l'objet de l'exception. Les exceptions, c'est pour répondre à des problèmes de marché qui ne fonctionneraient pas. Or là, le marché fonctionne très bien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Absolutely, Anne. Thank you so much, Anne. Thank you for bringing those reflections from the book sector. I think it's really important today that we are from all different parts of the cultural landscape, the creative industries, and today we have an opportunity to hear from the different perspectives and why different kinds of public policy are required at different levels to ensure we really do continue to have diversity of expression. I forgot to say earlier that we did invite someone from the Association of Music Platforms, but sadly they weren't able to join us. I didn't want people to think we hadn't invited people from the platforms also, but that brings me on to Helen Smith, Executive Chair of Impala. The music sector, as I understand it, Helen, talking with you earlier, wants a better transfer of value from platforms to labels and musicians. So my question is, you're the independent sector. How do you see the future for independent labels that put their records on user uploading platforms? How are musicians and labels going to effectively monetize music when I've heard there's been some recent change that's made that less possible? Perhaps you can tell us about.
Yeah, sure. Well, Impala represents what's known in the sector. Oh, yes. Impala represents what's known in the sector as independent music companies. That basically means small and medium-sized and micro operators. And our job is to partner artists. So we do the promotion, we do the negotiations, we help out with making an album. It's a job that really today is one that just moves constantly. So, for example, our organization has always been, and our members have always been, very pro-digital. So we did a deal with Napster when Napster was the world's second biggest brand. Some people in this room might not remember Napster, but not so long ago, it was the world's. Yeah. Not so long ago, it was the world's second biggest brand. It's interesting to remember that. And today, we have a really great functioning licensing body called Merlin, and it makes all of the independent music available in a one-stop shop for the world for all digital purposes. And that's really important because that basket of repertoire represents 80% of all music released in Europe today. So it is a huge basket of repertoire. And what our members are noticing also is that they are solicited more today than ever before by artists who are looking for professional services. so that they could concentrate on the creative side. And that's obviously particularly important when you want to go outside your country as well. So today, in the context of this particular panel and remuneration, I think we've heard a lot about the value gap. That's obviously something that's really, really important to our members. It's very, very important to Merlin. Our members have, you know, really well-functioning channels on YouTube, great daily relationships. They do see this value gap, you know, in quite a stark and obvious way. So the move from the Commission and the move through the legislative process to fix that value gap through Article 13 of the Copyright Directive is something that we welcome. And also, simply from the question of the functioning of the digital market, it's very important that that's friction-free. At the moment, it's full of friction and inefficiencies. So clarity in that respect is positive for the single market. We also support the transparency and contract adjustment provisions. That's an area where Impala and the independent sector have already done a lot of work. 3 years ago, on an international level, we adopted something called the WIN Declaration, where the sector took on engagements beyond their contractual obligations to share certain types of revenue which were not covered by the contracts, and also include certain provisions on transparency. There are certain elements in those provisions in the draft directive that we think do need to be modified so that they're proportionate and reasonable for our members, bearing in mind that they're small actors. In terms of the new right that we heard about, that's a right that we have discussed for a long, long time in our organisation at different levels, different countries, and we have come to the conclusion that it's not something that we can support as an organisation. We think it goes beyond what is reasonable in the sector, and we're concerned about the impact on...
We could come back to that. We were never to agree.
Yeah. So that is something which we feel, you know, adding a new right to the complexity in today's digital market is not something that our organisations feel is appropriate. And when they do that, they look at the fact that they have to weigh up their accounts. They know that if you're a digital service and you have to start negotiating and paying out again, that will surely come out of someone else's share, which would be our member's share, and they feel that would have a drastic impact on their ability to continue to invest and to maintain the risk, which means that they're able to sign up 80% of all new artists today and give those artists an opportunity. And it's really about that balance between investment and risk. So that's why they believe that is something which is just a step too far for them. In terms of the three Ps, I think our members would add two Ps. I think they would add power and parity. And if the power of platforms and the ability to rewrite the rules of engagement is something which is very important, and it's great to hear Mrs. Truppel talking about that in such a passionate way, because this is something that, you know, we have discussed also in our action plan for digital, which is about promoting the digital single market through culture. We talk about rewriting the rules of engagement online. And we, as a sector which, you know, cooperated very early on with the digital market, we totally embraced the user-generated economy. We are engaging with, you know, enormous players, and we can see that sometimes the trading practices go beyond what is reasonable. Obviously, the role of competition rules is very, very important, but we do feel that maybe the today's principles of competition may need to be revised so that they're fit for the digital age. When we look at the question of competition, is the notion, traditional notion of dominance, is it appropriate today when we see there are multiple indispensable partners, which means it's difficult to establish dominance? The other area which I think we're particularly interested in is the question of unfair trading practices online, which the Commission is going to address, and it's going to introduce a regulation on that. We think it's very important that unfair trading practices has a fairly broad definition, that it includes things like terminating contracts, like terminating access to tools which are essential. Content identification is essential. Monetization tools are essential. If your access to those is restricted or terminated because you're a smaller player, then that has massive implications, particularly when there are no alternatives in the marketplace. And we had an example last week with the main user upload platform deciding to terminate some of our members on the basis that they were too small. And this is something which, you know, is quite surprising, because we hear that the platforms have a role, they're fundamental, they're open, they're level, and yet in our members' lives that they see a slightly different story. So that is something which I think is vital, that is stressed in the upcoming regulation on platforms. And I think lastly, that I would just add that the question of parity is also about discrimination, and here we look at competition and we also look at trading practices. So I think it's going to be interesting to see what comes out of the Commission on that. And when we think about how we tie all this together, because there are different themes, what's important, I think, for Europe is to take a step back and why are we doing all this? Why is copyright important? Why is culture important? It's also about diversity, but it's also because of the cultural, social, and economic importance of culture. Europe has a totally unique situation, which, you know, involves multiple languages, multiple cultures, and this is something which we have a responsibility, but also a potential to maximise. And I think what's interesting for Europe right now is to look at the concept of an industrial policy for culture, which ties in, you know, how do we grow the SMEs in the sector. The media programme is fantastic. Can we have more in the loan guarantee scheme, please, for example? Because one of the issues in the cultural sector is that it is the SMEs who are doing a lot of the investment and risk-taking. Mm. So how do we grow those companies? How do we make Europe the best place for culture, the best place to run a creative business? And that, I think, is the bigger picture, which is really important to come back to. Thank you.
Thank you very much, Helen. I'm interested in that final idea, which I've heard many say about the need for a joined-up, holistic approach, and you've called it an industrial policy for culture, and it's maybe something that Mr. Abamonte can respond to, because I think many of us gathered here today have watched as various proposals have come forward in a kind of ad hoc way, as opposed to them being within a cadre of something more overarching, which is what I think you are referring to, and certainly the importance of SMEs within that. Well, Mr. Abamonte, you have heard a lot of ideas. You have an unfair, I would ask if you could just give some reactions to what you've heard, but also I know that you will have ideas of things you wanted to talk about, and the Commission's view on copyright and where it's at and where maybe you see it going and what may be any outcomes you can predict.
Good afternoon, everybody. I will try and go through the main points which have been made. So first of all, the objectives of the reform. One of the objectives, so the reform is about fairness and is about money. And it's good that it's about money, so it's about the value basically generated by protected content, it's the value generated by creation, and it's about a fairer, a much more equitable sharing of the value. So money is very important in this context, because we're talking about cultures, we are talking about cultural diversity, and we are also talking about fundamental rights, as I will try to illustrate when I will speak about the press publisher's rights, which Ms. Trooper referred to before. So in pursuing the objective of creating a fairer marketplace for copyright in general, and for all the different players, so the creators, the exploiters, and the platforms, of course, we are doing three things. So the first thing is that we are introducing a neighboring right for press publishers. So press publishers are not doing very well in the physical world, so they're losing a lot of revenues because, you know, print publications are a little, the consumption of print publication is a little bit, is decreasing, is going down the drain. So news are the more and more consumed online, but the increasing revenues online for the press for press publishers is not sufficient to compensate the decreasing revenues in the physical world. Since print publishers, they share, you know, in order to make advertisement revenues, their publications freely online, I mean, this has in turn give rise to new business models, the news aggregators. Mm-hmm. And the news aggregators also make money out of the advertising revenues, but there is a little bit of reluctance on their part to share the values with the press publishers. So we have given them a new neighboring right, which will do two things. The new neighboring right should enable the press publishers to negotiate better monetization agreement with the platforms. It should enable them also to better enforce their rights if their press publications are, for example, uploaded or they circulate without their consent, so if they circulate illegally. This is very important, not just for the press publishers, but it is important for the whole value chain. So it is important for the journalists, it is important for the cartoonists, it is important for the photographers, and ultimately it's very important for democracies, in particular if one considers this hideous phenomenon of fake news. So it is very, very important to guarantee the existence of free and trustworthy journalism in this world. The second thing is the value gap. When we've spoken a lot about the value gap. Well, with the value gap, we start what my former commissioner, Ms. Redding, called the virtuous circle, which could be also an expression of an industrial policy for culture. So what we are doing is that we are trying to rebalancing out the market in a way which is a bit more fairer for the right holders. So once time and again, we have this platform, the video sharing platforms, which have become the first port of call for consumption and distribution of protected content. And once again, who makes the money? Well, it's the platforms who make the money out of the content, which is very often created in Europe. And there's a reluctance on the part of the platforms to conclude fairer monetization agreements with the right holders. Why? Because the right holders do not know, so there is a lack of transparency on how the content, how much content circulates, how the content is consumed. So basically we have established a cooperation mechanism whereby the right holders will provide the data, so the fingerprinting to the platforms. The platforms will put in place some effective and proportionate content identification measures, and they will get back to the right holders. And in doing so, by increasing transparency, hopefully the right holders will enter into more effective monetization agreements with the platforms and will also be able to take down and remove content which has been uploaded without their consent. The other part of the virtual circle is the rules on greater fairness and remuneration of creators, which implicitly, well, you may say that it is not enough, but implicitly are an expression of an equitable remuneration right. So what we are doing is that we are trying to increase transparency to the benefit of the creators, so the authors and the performers, vis-à-vis their contractual party, the first contractual parties, so the producers, which may very well be a VOD platforms, I don't know, or a streaming, or a music streaming platform. So transparency as to the mode of exploitation and the revenues generated by the works. The possibility to adjust the contract, in particular if there is a disproportion between the remuneration originally negotiated and the commercial success of the work, is something which is very important, an ADR, a voluntary out-of-court dispute resolution mechanism. And
voluntary?
Voluntary. Well, the parties may...
Many would say, why voluntary?
Well, because it's very difficult to mandate an ADR. It's very difficult in practice. Normally, ADR is something... So normally, the parties have the right to go to court, but they may choose to settle the matter à l'amiable before a body, before a chambre de commerce, for example. So it will be a little bit intrusive, but again, this is a matter which will be discussed, to require an ADR, so to make an ADR compulsory. But having said that, there is Nicole Schulz who said that the professionals are weak and they will add very little. Well, it is, with a great respect, not accurate. There was this study carried out by these legal professors for the jury committee, which showed that as a result of the provisions, for example, in Germany, that there is no ADR, the Germans will have to introduce an ADR. So things for the performers and the creators, at least in Germany, for ADR, will go much better. But for the remuneration in many, many other member states, for example, there will be sector-specific provisions, so a new remedy, which can be used by the authors and the creators if there is a disproportion in the commercial success. So what is called the bestseller clause. I finish with the unwaivable remuneration right. So I know the argument. What is the problem with the unwaivable remuneration right? Is that this idea will add a complex layer and very costly layer of licensing costs for the platforms, which may be European small platforms. Yes, because the platforms will have to get a contract from the producers, and they will have also to get licenses from the collective management organizations in all member states, so in 28 member states. And in certain member states, there can be more than one collective management organization. So this will add to the burden of the platforms, so it will add to the burden of relatively small platforms such as Spotify or Deezer, which are European platforms. But on top of that, there is no guarantee that the authors will be better paid, because the cake, so the value, will remain the same. So basically, these people will have to pay less the producer in order to pay the collective management organization, and so eventually this may be a zero-sum game for the authors, will get paid the same amount of money. Now, having said that, if I can finish with a personal touch, because people say normally that I'm a bit unemotional when I speak about it. I am very, very attached to the copyright reform, and in particular to this part of the reform, so the better deal for the authors, the performers, and the right holders. So I will do my very utmost to defend it to the death, if I can. And of course, if the reform can be improved, and some of the weapons of the reforms may be sharpened up, I'm more than happy to listen to that. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Abamonte. Very, very interesting. I see great attentiveness in the room to what you said. I would love to open it up to the room, but time is pressing. I don't want to take away from Pascal's next workshop, but I would like to just offer the platform, if I may, an opportunity just to come back and make one point or ask one question of Mr. Abamonte, if they wish. Nicole, first.
Yes, thank you. yes, because, of course, the unwaivable right was mentioned a couple of times. It would be nice to get back to those comments. For Helen, of course, performers love producers. We have a good relationship. You mean work. So there's no question about continue that we want to continue or that we would like to put to cause problems. That's why we have that proposal of an unwaivable right to remuneration. So the EU legislator has given us an exclusive right, which is the most valuable right, and it doesn't work for us. So we try to fix it. So we're not trying to create a new right. We would just like to improve what we've already been given, for one. Then we could have chosen different options of enforcing this. So we could have asked for compulsory licensing, but we are not, because we would like you to continue operating the way that you've done, because you're doing it well, but we would like to make sure that performers are receiving a share, a fair share. And I think anything considering the market that it is today, and making it without the performers receiving a share of that, I think that consideration is beyond reasonable. And I don't think it will have a drastic impact, because it is equitable remuneration. And the last I checked, I mean, I'm slightly exaggerating now, but the French Authors Society collected double the amount of 36 of our member organizations in the same year. So I don't think we're going to kill the industry with our proposal. You've survived so many other things. You would survive this, I'm pretty sure.
Okay.
For
just last sentence.
One last sentence to Mr. Abamonte. I mean, it's the same argument. It's equitable sharing that you are, of course, promoting, which we're very happy about, but it has to be equitable. And I don't think, and I will just mention the contract adjustment, I don't think, also looking at Germany, I mean, ADR, I'm sure the German performers will be super excited that they've got ADR now. And also, I don't think that... looking also at a German example, that going through the courts for 10 years with the end result of not being able to get future engagements means that it's equitable, that it is equitable sharing and a good solution. So it is a toolbox which can be used in certain cases, but it does not mean fair remuneration for performers.
Jean-Paul.
Oui, je voulais juste dire qu'en France, il y a des droits déjà appliqués, par exemple des droits d'auteur pour les auteurs appliqués sur tous les films qui sont diffusés sur Netflix, à un taux certes encore un peu faible, mais en tout cas c'est un début. Et visiblement, ça n'a pas empêché Netflix de se développer en France de manière considérable. Donc je veux dire que c'est... Et pour revenir à mon cas, je disais, j'ai un peu l'impression des fois de ramener un peu à moi les choses, mais quand je reçois de la SACD en France des droits sur mes diffusions en Pologne, en Italie, sur la RAI, sur la ZDF, ça ennuie personne, c'est très simple, ça se fait, c'est automatique, et voilà. Et j'ai pas l'impression de mettre en péril tous ces diffuseurs, et encore moins Netflix, qui visiblement ne s'en plaint pas du tout. Donc je trouve que plutôt que d'aller faire des procès et courir après des exceptions partout, ce serait beaucoup plus simple, au moins déjà sur l'Europe, de développer ce droit d'auteur, de l'appliquer aux diffuseurs. Et tout le monde le prend en compte dès le départ, les producteurs, les diffuseurs. Évidemment, personne ne saute au plafond devant Chic, il y a des choses en plus à payer, mais en même temps, ça fait partie de la diffusion et de notre moyen de survivre. N'oublions pas que les Américains n'ont pas ça, mais ils sont payés beaucoup plus cher que nous quand ils travaillent. Donc c'est plus tout à fait le même rapport de prix à ce moment-là. Si on voulait tomber dans cette notion-là, il n'y a pas aucun problème. Alors là, les salaires européens, il va falloir les multiplier par par deux ou trois, quoi. Voilà. Donc c'est juste ça. Je trouve qu'il y a un système qui fonctionne, qui est perfectible, qu'il faut adapter au fur et à mesure, mais il est là et il n'y a aucune raison de ne pas vouloir essayer de l'appliquer. Voilà.
Merci. Helga.
Yeah. So in general, I think we are facing a market failure in the digital economy with the big monopolies. And we have an unfair situation for all of the authors. And I want to solve both. Therefore, I would argue again towards Mr. Abamonte from the Commission that I see on the content level and on a strategic level advantages when we go for this obligation to license, because I think it's much easier to argue publicly what it means than ancillary copyright. Therefore, I think because it's appropriate for press use, commercial use of press articles, and for copyright-protected uploading of country content, therefore, I prefer that. Of course, we have to make it in a juridical way, in a good manner, but I think politically it's a much better message. And on this unwaivable right, I think Nicole is right. What we had so far is not sufficient for the authors. They are at the start of the whole value chain, and we have to protect them because they are the weakest part in the whole cultural value chain. And therefore, I think there are only good reasons to go for that unwaivable right. It will not mean, for example, because I know the lobbying of Spotify, that they have to pay two times. No, they have not. There is only the need that they respect the right of the authors to be paid. And for that, I want to find a solution, and therefore I'm not convinced that the arguments of the Commission are right. I think my ones are better. Thank you.
Helen or Anne?
Pour les éditeurs que je représente, ce que je souhaite pour les gens qui vont voter dans les prochaines semaines ou mois ce texte, c'est qu'ils réfléchissent aux écosystèmes qui pourraient mettre en danger. Je pense qu'il y a... moi, j'ai pas d'opinion en tant que FE sur l'article 11 et sur le value gap. Je veux dire... Évidemment, je soutiens le partage de la valeur et c'est vraiment important, mais je pense qu'il y a des gens qui parlent mieux de ça que moi. Moi, je veux quand même rappeler que dans la directive, il y a 7 articles qui traitent des exceptions ou des œuvres épuisées et que c'est le sujet dont on parle presque pas et on a l'air de... Et c'est important. Je vais vous donner un chiffre et après je vais laisser la parole. Dans les écoles en France, 80% du matériel copié, c'est des livres scolaires. Si on ouvre une exception très large, ça rend la publication de livres scolaires impossible, et certainement ça la rend impossible pour les PME, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus que quelques acteurs, il n'y en a déjà pas beaucoup, et ça va mettre à mal la diversité culturelle, parce que l'édition scolaire, ça fait aussi partie de la diversité culturelle. Donc il faut réfléchir. Je pense que la Commission est arrivée avec un texte qui tenait plutôt la route, et il faudrait que le Parlement et le Conseil aillent dans une direction qui ne mette pas à mal les écosystèmes. Voilà.
Thank you. I could say very much about authors of textbooks also who have very little to depend on in many cases. Helen, just very tightly,
yeah,
if
you
would.
Sure. I think on the question of the new right, obviously the issue of remuneration is really important. I agree with Nicole, it's not the same as... So the question of remuneration is very important. I agree with Nicole that the question of dispute resolution and remuneration are separate. But I think certainly in the music sector, the question of a new right is something which would upset the balance. And certainly I'm just responding. And there is a system in place. I think it would have an effect on the platforms. And certainly in terms of our numbers, you know, we have a contract adjustment clause. If our contracts are revised, if we have a new right, then it will change the economics of certainly the independent music sector and wider music sector, and I think some of our featured artists would be concerned if they felt that they would receive less at the end of the day. And I think the final word I would like to contribute anyway is on the question of the value gap, because there is some debate around whether or not if we fix the value gap, then we also need an exception on user-generated content. And I would just like to underline that certainly in our world, where we have embraced user-generated content to the extent that 80% of revenues from YouTube, for example, today are from user-generated content. I think an exception for that content is really a giant step backward.
Thank you very much.
Okay, thanks.
I'm sorry I have to close very quickly. I don't want to go further on to the time of the next workshop, but I'd like to say thank you to all of you for... bringing such passion and such detail on behalf of all those you represent, and also for debating amongst each other. We were never going to agree, but that's part of the democratic debate we are involved in. Thank you very much indeed. Thank you.
Il y a un marteau ici, c'est incroyable. C'est où? Je suis où? Toi, Liliane est là? Elle est pas mal. DG Connect, c'est qui la DG Connect? Il n'y a pas de DG Connect là. Il n'y a pas de DG Connect. C'est qui?
Oui, oui.
Bon. Moi, je suis là.
Voilà.
Bon, ben là, il y a un micro. On éteint où le micro, là? D'accord.
Bon, salut.
Mais si, ça va. Oui, on m'a dit. C'est pour ça que je partirai en premier. Vous parlerez en premier. Parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit.
Mais je m'excuse tout d'abord. Il faut que je parte parce que j'avais quelque chose d'autre.
Voilà. Ça va?
Comment allez-vous?
Bon.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Voilà.
Ouais.
Christine.
Ouf. Bon, on va continuer les débats. D'abord, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec Viviane, hein, Viviane Reding, parce que elle a tellement fait pour la culture, la création en Europe, et elle continue de faire avec des directives qui ont été modifiées, améliorées, que on peut toujours compter sur elle. Et ouais, on en reparlera bientôt. J'étais ravi d'entendre le discours de la commissaire au numérique, parce que souvent les commissaires au numérique, et en France les ministres du numérique d'ailleurs, n'ont pas un discours très culture. Voilà, on crée des barrières entre le numérique et la culture. Et là, on a une commissaire au numérique qui a fait un vrai discours culturel sur l'apport du numérique à la culture, à la création, à la diffusion des œuvres. Par contre, j'ai été déçu par le discours du représentant de la Commission. J'ai pas senti entre la commissaire et le représentant de la Commission le même discours. Et je sais qu'actuellement, on parle de régulation pour mettre fin aux fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news en anglais. Bah, dire que la rémunération proportionnelle des auteurs complique la vie des plateformes, c'est tout simplement faux. Moi, je parle d'expérience, puisque je suis l'héritier de Beaumarchais. La SACD a été créée en 1777, et le combat de Beaumarchais, c'était la rémunération proportionnelle des auteurs. Un combat qu'il a mené, qu'il a gagné, et qu'il a obtenu dans la Révolution française. Donc, c'était un combat pour les droits de l'homme, qu'il a obtenu le vote d'une loi, à l'époque, qui a permis cette rémunération proportionnelle. Actuellement, en France, je parle de la France, nous avons une rémunération proportionnelle avec toutes les plateformes. Et ça n'empêche pas, comme l'a rappelé Jean-Paul Salomé, Netflix de se développer en France. Ça n'empêche pas YouTube, avec qui nous venons de signer un accord, de se développer en France. Et ça n'empêche pas d'autres sociétés comme Apple, par exemple, de faire de la vidéo à demande par abonnement. Mais tous les auteurs, quand leur œuvre est diffusée, perçoivent une rémunération proportionnelle. C'est d'ailleurs le cas des musiciens qui, eux, perçoivent dans le monde entier. Donc, Jean-Paul a quand même la malchance, c'est que lui n'a pas de rémunération dans certains pays. Par contre, le musicien de son fil, lui, est sûr d'en avoir. Voilà. Donc, il faudrait quand même que, quand il réalise un film, il fasse aussi la musique, comme ça, il serait sûr de percevoir quelque chose. Ça serait pas mal. Sur la France, je dirais en point final que toutes les plateformes Internet, les grandes en tout cas, ont signé des accords et respectent le droit d'auteur, actuellement. Par contre, le principal groupe audiovisuel français, celui qui a fait beaucoup de relations institutionnelles pour dire à la Commission il faut lutter contre la piraterie, je parle du groupe Vivendi, sa filiale Canal+, a l'année dernière brutalement cessé de payer les droits d'auteur pour faire baisser très fortement le niveau de ces droits d'auteur. Et en ce qui concerne la SACD, pour faire régler et respecter les contrats, ce que nous avons finalement réussi à faire, nous avons dû aller au tribunal de grande instance de Nanterre. Voilà, donc on critique les plateformes Internet. Dans certains cas et sur certains points, elles ne sont pas toujours vertueuses. Mais je peux témoigner que sur la question des droits d'auteur, et en ce qui me concerne, ce qui concerne la SACD, donc tous les auteurs du cinéma français, ils ont été respectueux des contrats, que par contre, malheureusement, un grand groupe audiovisuel français ne l'est pas du tout. Et je le redirai mardi lors d'une conférence de presse. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, le sujet, c'est comment rendre les œuvres européennes plus visibles en Europe. Et je suis heureux d'avoir des spécialistes un peu de ces questions. D'abord, Siada El Ramli, qui est la directrice générale d'Edima, à qui je donnerai la parole en premier, puisqu'elle doit partir. Elle a d'autres occupations. À ses côtés, Christophe Tardieu, le directeur général du CNC, qui pourra d'ailleurs expliquer... Je ne sais pas si vous étiez là quand la commissaire l'a annoncé, qu'elle a mis au point, enfin, elle veut faire un registre, un répertoire des œuvres pour qu'on sache les œuvres qui sont disponibles. Le CNC l'a fait pour la France, ce qui nous a d'ailleurs permis de savoir ce qui n'était pas disponible, car quand vous savez ce qui est disponible, vous savez aussi ce qui n'est pas disponible, et ce qui nous a permis de faire voter en France, qui serait aussi une bonne législation en Europe, ce qu'on appelle une obligation d'exploitation suivie des œuvres, c'est-à-dire que ceux qui ont les droits des œuvres, que ce soit des cataloguistes ou des producteurs, ne s'assoient pas sur l'œuvre pour qu'elle ne soit pas exploitée. Et ça a été voté d'ailleurs à l'unanimité par le Parlement français dans la loi Liberté de création. Lucia Récal, qui est la chef d'unité créative d'Europe Média à DG Connect, donc il doit être rassuré puisque sa commissaire a dit qu'elle défendrait bec et ongle le budget du programme Média. Christine Éloi, qui est la directrice générale d'Europa Distribution. Nicolas Franck, qui est la responsable des affaires européennes de l'Union européenne de radiodiffusion, qui, elle, naturellement, est aussi... active pour que les œuvres circulent et qui peut nous dire quels sont les obstacles. Donc, Siada El Ramli, vous représentez les plateformes. Je ne suis pas sûr que vous soyez battu pour les propositions qui sont actuellement sur la table, c'est-à-dire le quota obligatoire de 30% d'œuvres audiovisuelles. Alors, la commissaire m'a demandé, enfin, a demandé si on était content. Moi, j'aurais préféré 50. Voilà, mais bon, c'est comme dans la directive Télévision sans frontières, mais 30, c'est mieux que 20, alors 40, ça serait mieux que 30, voilà, bon, après. Et deux, je ne sais pas si vous êtes satisfaite d'un point qui est très important dans la directive sur les services de médias à la demande, le fait que maintenant, les obligations seraient appliquées aux pays de destination. D'ailleurs, certaines de vos plateformes, vous le savez, sur des questions fiscales, et en particulier là récemment Facebook, a annoncé aux joies, au soulagement pour le petit contribuable que je suis, qu'ils paieraient leurs impôts sur la base de leurs revenus en France. C'est formidable, ça. On paye ses impôts sur la base des recettes que l'on fait dans le pays où on fait les recettes. Et on n'est pas situé dans des pays où on paye beaucoup moins d'impôts. Donc, voilà, dites-nous ce que vous pensez de... Dites-nous tout le bien que vous pensez de ces mesures.
Merci. Maybe I can start. I would have gladly also commented on some of the things that were said at the last panel, but I've been invited to speak on this topic on how to make European creative works more visible in the EU. And frankly, the AVMS and where that might end is not to me the answer. I think what we need to look at is the reality of the situation today, which is that there's been a paradigm shift, that as it is today, we see that the consumption of European content is probably at its best for a very long time. Online, we've got major and small European productions getting a lot more attention than ever before, be that in the print publishing side, be it in the audiovisual side or in music sector, and I can give you some figures later on. But I think if we're going to look ahead at what is a pragmatic approach to actually create visibility for European content, it's to reach the audience, and that's where the paradigm shift has changed. And that's where I thought it was enlightening to hear Mr. Abamonti say the copyright proposal is about money and the distribution of money and reinforcing, actually, basically it comes down to reinforcing the status quo. And I think that that's exactly the wrong way to go about it. Thinking of reinforcing the distribution channels that have been in place for a very long time in an environment that's completely different will not work. What we're seeing today is online, you've got people gathering together on the basis of common interests, on the basis of common passions, and that is exactly what will be the best way to allow the creative sectors to cater for their audiences who will lap up the content. That also means a recognition for what kind of content we're actually talking about. So online is more tailored, it's more targeted, and it is appeal-based consumption. That means that you'll have for generic mass appeal productions, if I may, you will have larger audiences, but that doesn't mean that for niche productions you won't have an audience. You will, but you have to find that audience. So you'll have to get more creative as to how to reach them. And that's why I'm saying I'm not necessarily going to go into the weeds of the AVMS directive. Frankly, we've gone through the whole process here in this House, in the Council. We're now in the trilogue discussions. I'd like to think of a more proactive way as to how to reach the audiences correctly. And to do that, I think that the creator groups, the creators themselves, will have to tap into those communities, those audiences that are actually craving to consume the content that's being created. It might mean adaptation of some of the content to become more appealing, but overall, the audience is there. The audience has been taking up a lot of this content. So if I think of just a few examples, because Netflix has been discussed, not a current member of ADEMA, but if you think of three big productions that are being consumed heavily on Netflix at the moment is Cable Girls in Spanish, Dark in German, La Monte in French. Those are European productions, not all Netflix productions, but European productions that there's an audience. They would never have had that level of appeal had it just been going through the normal distribution channels of release windows in one geography at a time. Between 2003 and 2013, we saw that digital accounted for 34 billion euros of revenue increase in the EU's creative sectors. These are big numbers. This is not something to be batted away. A subscriber to Spotify, Deezer, or Apple Music generated 2.4 times more on average than somebody who was consuming a purchaser of physical or digital music. So what I'm saying is to be able to have creative works visible, the first thing would be to reach out to the audiences more directly, to embrace the opportunities that the paradigm shift has actually created, as opposed to just trying to entrench even more obligation in legislation.
Merci, mais vous pensez quand même pas que si vous aviez plus d'œuvres européennes sur certaines plateformes, elles auraient plus d'abonnés?
plus des abonnés
de souscription.
D'accord. Mais on a plein des abonnés sur les plateformes.
Oui, mais vous pourriez faire encore mieux. Vous savez, je cherche à vous encourager, moi, vous faire progresser.
Oui, nous, on est tout à fait d'accord qu'on veut bien avoir plus des abonnés. C'est toujours comme ça.
Plus d'abonnés, mais pas trop d'obligations. Bon.
Mais
moi, je pense que l'obligation et l'abonné peuvent aller de pair. Voilà. Il y a des obligations qui sont, on appelle ça en France... Christophe Tardy en parlera peut-être, vertueuses, c'est-à-dire qui vont dans le bon sens pour tout le monde. Bon, on est d'ailleurs en France spécialiste des obligations vertueuses, bon, qui ne le sont pas toujours à l'arrivée. Lucia Recal, donc vous êtes la responsable du programme Média, et un des piliers forts du programme Média, c'est justement la circulation des œuvres, parce que dans toutes les études qui ont été faites, en particulier sur l'audiovisuel en Europe, ce qui a été identifié comme un point faible de l'Europe, c'était le fait qu'on produisait beaucoup d'œuvres dans les différents pays d'Europe, d'œuvres européennes, mais qu'elles ne circulaient pas assez, et qu'en réalité, en particulier sur des marchés comme celui du cinéma, ils étaient polarisés entre les œuvres nationales et les œuvres américaines. Bon. Et donc, le programme Média, avec Europa Cinéma, avec le programme sur la distribution, ont essayé d'encourager ça. Alors, je voudrais vous demander un peu, qu'est-ce que vous pensez des résultats de ce programme? Est-ce que il y a encore des nouvelles idées qui apparaissent pour favoriser la circulation? Et est-ce que vous ne pensez pas que la faiblesse de l'Europe actuellement, c'est d'avoir finalement... de réussir assez bien dans la création, dans la diversité de la création, aussi bien en cinéma qu'en audiovisuel, mais d'avoir une énorme faiblesse sur les plateformes, puisque les principales plateformes sont américaines et ne sont pas européennes.
Donc, la question. Je voudrais commencer par partager avec vous, puisqu'effectivement, les programmes médias, qui est un programme... populaire, comme a été dit par la commissaire, qui est un programme qui a fait ses preuves. C'est un programme qui a porté une véritable valeur ajoutée, justement à la circulation des œuvres non nationales européennes, à travers divers dispositifs. Vous avez évoqué quelques-uns, je vais les mentionner aussi. Europa Cinéma, un réseau qui inclut plus de 2500 écrans dans plus de presque 700 villes européennes, et pas simplement les grandes villes, mais aussi les villes de taille moyenne qui permettent vraiment d'approcher et de rapprocher la culture européenne à un plus grand nombre de citoyens. Mais aussi, le réseau Europa Cinéma donne de la valeur aux films. Je crois que c'est un élément très important, parce qu'environ 65% des revenus pour des films comme Tony Harman ou des films I, Daniel Blake sont faits via les réseaux d'Europa Cinéma. Et je pense que c'est un élément des générations de valeurs monétaires et des valeurs pour la promotion de ces films dans d'autres plateformes par la suite qu'il faut tenir compte. Nous aussi, via Média, vous le savez bien, on soutient diverses actions de distribution. Aujourd'hui, presque un tiers des films qui sont produits sont soutenus d'une façon ou l'autre dans la distribution en Europe. Un tiers. Donc je crois que les chiffres parlent par eux-mêmes de la valeur des médias dans la circulation des films. L'action festival, parce qu'environ 4 millions d'Européens, ça permet d'avoir accès à 4 millions d'Européens, environ accès aux films européens non nationaux, à nouveau. Je veux mentionner aussi les actions de promotion en ligne, parce que Média s'est adapté progressivement, peut-être pas assez, mais certainement a voulu s'adapter au développement qui se fait dans l'industrie et a voulu soutenir des façons plus structurantes des actions promotion en ligne des films. Et on a décidé vraiment de focaliser sur des actions en innovation, vraiment comme la constitution des catalogues ou des expérimentations au niveau de la distribution de films. Je dirais juste un mot sur l'éducation au cinéma, parce qu'il faut vraiment créer les audiences de demande. Est-ce que ça veut dire que les programmes, que tout est parfait, qu'il ne faut rien changer? Absolument non. La commissaire l'a déjà dit, il faut vraiment bâtir sur ces acquis, mais vraiment améliorer les programmes pour les rendre plus performants. Et aujourd'hui, clairement, on pense que les programmes, il y a une espèce d'effet saupoudrage entre 14 actions, 14 dispositifs aujourd'hui, qu'avec un budget constant, les actions ont grandi, mais pas les budgets. Et ça fait que peut-être ça ne nous permet pas l'effet d'impact que les programmes devraient avoir. On pense aussi que les programmes devraient s'orienter aussi davantage sur les audiences et vraiment essayer de non seulement de soutenir l'accès et la circulation des œuvres, mais que ces œuvres soient connues, attirantes, que ces œuvres arrivent vraiment aux audiences. Et on pense que le programme doit faire beaucoup plus pour soutenir la collaboration tout au long de la chaîne de valeur. Média a soutenu collaboration entre producteurs autour d'Europe, entre distributeurs en Europe, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des collaborations beaucoup plus structurantes entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, on pense que pour l'avenir, on pourrait avoir quatre grands axes structurants pour le programme Média, et un axe autour du soutien à la création, un axe pour soutenir l'accès aux œuvres, la promotion des œuvres, les talents et la collaboration. Je voudrais juste dire un mot à propos de la promotion, parce que ça nous paraît un aspect fondamental où peut-être on n'a pas fait assez dans le passé. Et on a soutenu la circulation, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour que ces œuvres soient connues, qu'il arrive vraiment. Et peut-être il faut faire un effort additionnel en termes de marketing, profiter des moyens digitaux, comme la commissaire l'a dit, pour vraiment promouvoir, arriver via des stratégies très ambitieuses en utilisant les réseaux sociaux et d'autres, pour que vraiment ces œuvres arrivent à connecter avec les audiences et d'une façon, comme je dis, plus structurante. Et on a Média soutenu la diversité culturelle. Il y a peut-être d'autres types de diversité qu'il faudrait soutenir, je pense, qu'on crée au gender diversity. Ou peut-être c'est un sujet opportun aujourd'hui au sein de l'industrie, et peut-être il faudrait réfléchir à comment Média pourrait soutenir ces types de diversité. Je voudrais dire un mot par rapport à une initiative en concrète que je crois qui a soulevé beaucoup d'intérêt de la part qui a été mentionnée par la commissaire. C'est l'idée d'un repositoire des œuvres. C'est clair que là, on va lancer une réflexion avec l'industrie, avec les acteurs, très rapidement. On ne va pas bâtir ex novo, mais on va bâtir déjà sur les outils de référencement existants, comme en France, sur les travaux faits à Alicante par Agorateca, ou les travaux qui est fait par la base de lumière avec l'Observatoire à Strasbourg. Parce que c'est via un créant, je dirais, en mettant toutes les initiatives déjà existantes autour de la table qu'on pourra avoir un effet multiplicateur. Et la commissaire a parlé du budget, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est clair qu'on devrait avoir des moyens à la hauteur de nos ambitions pour les programmes pour l'avenir. Donc, je vous inviterai à participer à la consultation sur les futurs programmes qui viennent d'être lancés par la Commission. Et les consultations pour le futur budget de l'Union européenne se sont faites par clusters. Il y a un cluster qui est autour de la mobilité, les droits à la citoyenneté, auquel qui est pertinent pour les activités culturelles et les activités audiovisuelles. Et je vous inviterai vraiment à participer et à être nombreux à faire montrer comment les programmes contribuent à rendre de la valeur à vos œuvres et nous permettre aussi d'avoir justification importante pour les budgets pour l'avenir.
Merci. Et sur les plateformes Internet, il va y avoir un programme spécial ou ça fait partie du programme général?
On a commencé un dialogue, comme je viens de dire. L'idée, c'est de la collaboration davantage. Donc, on a créé des structures de collaboration entre les distributeurs en salle, des plateformes VOD, les agents de vente, pouvoir explorer les possibilités de créer des nouveaux véhicules et des nouveaux modèles de collaboration entre tous ces acteurs au niveau européen pour avoir une plus grande masse critique, un plus grand effet structurant et collaborer. C'est là où on est la réflexion à ces moments-là, c'est sur l'idée de bâtir ce qui existe, de mettre tout le monde autour de la table avec des objectifs stratégiques à moyen et long terme.
Merci. Alors, je vais me tourner du côté... Alors, UBU, mais moi j'ai dit Union Européenne de Radiodiffusion en français. Bon. Alors, il y a eu des débats assez passionnés, ils ne sont d'ailleurs pas terminés, mais bon, presque, sur les questions de territorialité des droits, puisque on avait un commissaire qui voulait faire un grand marché unique numérique et qui considérait que la territorialité des droits était un obstacle, ce qu'elle peut être d'ailleurs, au grand marché numérique. Et puis, il y a des professionnels, d'ailleurs, quasiment tous les professionnels confondus, qui ont dit, mais il faut quand même respecter les marchés en Europe, parce que il y a une chronologie des exploitations, en particulier pour le cinéma, même aussi pour la télévision. Et il faut être prudent, sachant que ceux qui veulent acheter des droits pour l'ensemble de l'Europe, les grandes plateformes américaines, de temps en temps le font, et s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, au départ. Et donc, l'URL, dans la discussion sur une directive très pointue, on en parle moins que les autres directives CAP satellite, a défendu l'idée, qui est un peu contradictoire, c'est que sur la télévision de rattrapage, on appliquait la loi du pays d'émission. Je schématise, pour la diffusion primaire, on l'applique, mais on l'appliquerait aussi à la télévision de rattrapage qui se développe de façon très importante. Et je pense que le public est satisfait de pouvoir rattraper des programmes qu'il n'a pas pu voir lorsqu'ils ont été diffusés. Mais ça pose aussi des problèmes de droit. Il y a une sorte de conflit entre vous et, si j'ai bien compris, les producteurs, en particulier sur le sujet. Est-ce que vous pourriez expliquer votre position et puis nous dire comment se positionne l'UER sur justement ces problèmes de plateforme, parce que l'UER a toujours cherché à favoriser la diffusion des programmes des télévisions publiques. Est-ce que vous ne vous sentez pas quand même en manque de plateforme européenne dans le numérique pour diffuser toutes les œuvres que font les services publics en Europe? Parce que si on additionne tout ce que vous faites entre la BBC, l'Espagne, la France, l'Italie et les pays nordiques, en termes de création aussi bien en cinéma qu'en fiction télévision, honnêtement, c'est un meilleur programme que celui de Netflix. Enfin, c'est mon avis.
Voilà. Bon, merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions très intéressantes que vous posez. Moi, j'aimerais bien avoir un peu un regard un peu plus large, pas seulement dans l'auteur, qui est très important, évidemment, et notamment aussi pour la question d'éventuellement créer une plateforme européenne. Si vous me permettez, je vais aussi adresser un certain nombre d'autres sujets.
Ah, mais vous avez le droit de ne pas répondre à mes questions.
Et je change en anglais maintenant. if this is allowed. So, just to remind everybody that public service media organizations are actually quite key actors in the creative and cultural sector, because they invest a lot, among other things they do, but they invest a lot in original content, and which amounts to 18 billion euros per year in the EU. And if you compare this, for example, with Netflix and Amazon, combined globally, they invest, I think, 9.5 billion. So it's still, you know, it's still an important factor in the European audiovisual economy. And what is interesting also is that 84% of this investment really is invested in original content, and that is really a great amount. And all this content is available in addition, of course, with all the different genres, be it news and current affairs, drama, children programs, for an average of 3.81 euros per month to the citizens. This is either license fee or budget from the state budget. That is also an interesting fact. Now, from all they produce, a lot of this content is, of course, national content and regional content, and this is something which, of course, the audiences like to see, and this is why public broadcasters can produce this and make it available. But when you look at what they show on their screens, according to the European Audiovisual Observatory, it's interesting to see also that 44% of the film they broadcast actually European films. So there is a great variety already available on public service media channels. And you all know that, I mean, they are very active in also co-investing in co-productions of cinema films in general. And there are many examples of awards which have been given to very successful co-productions. A recent example is The Square, which was awarded the Palme d'Or. Now I'd like to briefly come back to the changing environment, audiovisual and media environment. And Siada has talked about a paradigm shift, and I think it is really a paradigm shift. in many respects, and public service media, but all the other stakeholders can feel it, and they benefit from it, but they also in an increasingly competitive situation. As we all know, the environment is increasingly converged and globalized, and next to this, we have a European media and audiovisual market which is fragmented due to a lot of different smaller and bigger countries, due to a multitude of languages and many other aspects. And often European actors are actually very small, so to compete with these big operators is not easy. But, I mean, this fragmented environment leads also to a situation where we have a great diversity. You have a lot of different actors with a lot of different creative and talent and diverse, producing diverse content. What is very clear, of course, is for all these actors that they have to be online, they have to be active online, they have to have a strong presence, and so also have to have public service media organizations. If they're not online, very active, offer their services, they're not relevant anymore, and they will soon be dead. And they have developed a lot of different services, linear, non-linear, and the famous catch-up services, which you mentioned, which are very popular. According to our research, actually, it shows that these free catch-up services, such as BBC iPlayer, which is very well known, or Rai Replay, remain the preferred way to access on-demand content. And actually, almost all of our members offer these catch-up services these days. But they don't only offer their own services on their own platforms, but they also cooperate with platforms, and you can also access their content via the platforms. And this creates, of course, a particular situation with also a particular way or kind of competition. And then when you look at what the platforms develop, I mean, it's really getting quite tough for all the other, the traditional, let's say, the traditional audiovisual players. Netflix and Amazon Video, for instance, are strengthening their presence in European markets, not only through video on demand services, but also increasingly investing in content production. We heard this earlier. And this means that competition also appears for distribution rights, content rights, production, advertising revenues, and also for talent. So that changes really the situation. There are many other examples of that kind. Now I come to the regulatory issues, which we also have to look at. We all have been involved in and have looked closely at the different digital single market initiatives launched by the Commission. And these initiatives have addressed some of these of the factors created by this paradigm shift. But I would say they've just scratched on the surface, and they haven't really gone into the depth of the matter. And of course, it's also not very easy because developments are very, very fast. So regulation always is behind actually market developments. Copyright was mentioned, indeed, and very important when you talk about circulation of European works of content across borders. Copyright is a very important element, and indeed we have supported the European Commission proposal on the so-called broadcasting regulation, which advocated a system where the broadcasters own online services, so these catch-up services, which are very popular, their own programs, could fall under a country of origin principle, which in our view does not mean that the principle of territoriality is completely gone, absolutely not, because you will always have to negotiate, of course, the price for this. I mean, you will always have to deal with the right holders and decide together how you come to an agreement. Now, we understand that the Parliament and many other stakeholders, you said it earlier, are not supporting this, and this is regrettable. But there we are. We'll see what gets out of this discussion. Another element which was mentioned earlier also is the Audiovisual Media Services Directive, and there is one element which is important for us. This is the question of appropriate prominence of general interest content. The European Parliament actually usefully introduced a provision which allows member states to adopt proportionate measures at national level in order to pursue these general interest objectives, and those would be media pluralism, cultural diversity, and freedom of expression. So very important. It's one element of the story. But what else needs to be done? And it's very clear that collaboration of the different stakeholders is crucial, and with many of the stakeholders who have spoken today, public service media do cooperate on a regular basis, and that's very important. For example, in drama, high-end drama co-production, they also partner with commercial operators, commercial television operators, but also platforms. To address societal and political issues like fake news, we have now a huge debate around fake news, but also fight against hate speech online, news and media literacy. We are collaborating with platforms, and there are, for example, a number of fact-checking initiatives where we work with them together. And, of course, they collaborate with their fellow public broadcasters. There is, for example, an interesting cooperation initiative of the Nordic public broadcasters, which is called the Nordic 12. And the idea here is that 5 Nordic public service media organizations together produce 12 drama series and a series of 12 drama, which they will then broadcast across the 5 countries. So that is also very useful. In this context, it's important to mention, of course, the media program, and we all want that this media program continues to strive. And it does, for example, it has helped, for example, in the past with the creation of an European VOD platform, Mubi, for example, which is quite successful. It's difficult, of course, to compete with the big platforms, but it's very good that these platforms exist. But regulation, yes, we have, and the media policy, media program policy, very important. But there are also issues which have not been addressed so far. And this is more broader, the question of the role of platforms and their responsibilities. And we think this needs to be sufficiently addressed. We have identified a number of issues where this can be a problem. And this is, of course, different regulatory regimes, sometimes the lack of data, which is important, especially for public media and other broadcasters, the access to audience data, for example. Then there is also a lack of transparency on access and prominence of content and sometimes preferential treatment of the platform's own or the partner services. So when they not only offer the platform, but they have their own content services, how do they deal then with other providers? More generally, what we think has really to be looked at is the lack of transparency of business practices and algorithms for users and for content providers. Very important. What we think is, regulation for this commission, there will not be many new proposals, we don't think so, but at least what the commission could support would be in this context is structured dialogue. They could facilitate the structured dialogue between media and audiovisual players and the platforms to address these different issues. That would certainly be helpful. And last but not least, I would like to mention the key role of media research and innovation. The commissioner earlier mentioned her idea to support the development of digital narrative and to use big data for this also. And this is indeed very important. Our members are looking at new ways of producing content, distributing content, and make it available. And for this, innovation and research is necessary. And we have strongly advocated to introduce a media innovation scheme into the new European research agenda beyond 2020. So this is currently being discussed, and we think this would be very important. So to summarize, what we need to go on from here is increased collaboration between all the different stakeholders, address the role and responsibility of platforms, in particular improve transparency of their business practices and create a dialogue, as I said, and include a media innovation scheme in the new European research agenda beyond 2020, which should capitalize on Europe's creativity and diversity. Thank you.
Merci. Après l'Union européenne de radiodiffusion, on va aller du côté plus traditionnel, c'est-à-dire la distribution des films en salle. Si. Mais je dis que la salle de cinéma, pour le cinéma européen, c'est un atout important d'avoir pu conserver, grâce à aussi différents programmes comme Europa Cinéma, un parc de salles aussi puissant, aussi rénové, et que c'est une chance d'avoir ce parc de salles, parce que une chose qui me frappe, moi, c'est qu'Internet fait baisser la valeur des œuvres. La valeur des œuvres est plus basse quand c'est sur Internet que c'est dans les médias traditionnels. Et grâce aux salles de cinéma, la valeur du cinéma s'est maintenue. Et ça permet, comme elle est maintenue et qu'on a beaucoup de spectateurs en salle, quand même d'avoir des conditions de financement des œuvres en Europe qui peuvent rester satisfaisantes. Donc, je voudrais donner la parole à Christine Éloi, puisque vous avez été distributrice sur le terrain en Belgique, et ce n'est pas forcément un terrain facile, la Belgique, bon, parce qu'en plus, c'est un peu coupé, quoi. Bon. Et maintenant, vous représentez l'Association européenne des distributeurs. Quel est votre point de vue sur ces sujets, sur la territorialité et sur les mesures à prendre pour justement favoriser la circulation des films en Europe? Et puis, dernière question, vous m'avez dit que vous n'aviez pas peur, mais je vous la pose quand même. C'est ce que vous craignez pas que certaines plateformes, on le voit dans certains cas avec Netflix, privent les distributeurs en salle des œuvres quand ils empêchent justement la sortie salle et ils veulent avoir une exploitation très rapide sur leur support de diffusion. C'était le cas, je le rappelle, pour le film de Yoav Ben-Amina qui avait eu la palme d'or, la caméra d'or à Cannes, Divine. Voilà. Qui est sorti en France, mais je crois nulle part ailleurs.
I have to decide which language I would use. Maybe English is better, no? So that everyone can follow. So I'll do a mix with what you asked at my own rhythm. I will first start to explain which distributor we are actually representing, because I understand for a long time now that it is a job that is not very understandable for many. So the distributors that we represent, or independent distributors, are generally very, very, very small to medium enterprises. So it means it's a very, very small team that will go and hunt for films they love. So there is certainly, for most of them in our association, certainly the P of passion that we were speaking about before. So that's, they would release, well, you mentioned Tony Erdmann, that's typically a kind of film they would release. The Square also, but it can also be, well, you said that I was a distributor, I release Lord of the Rings, but I also release Still Life from Yazanke, so from the super big American thing to the tiny, tiny Chinese documentary. That's what they do. So the super big American films that finished, that was 20 years ago, so it's difficult to do it as an independent now. So what they do mostly is reading scripts and then try to translate that in a release, so that when they are reading a story from an author they know of a new one, because they are, of course, always searching for new talent, it's to try to figure out, or with that text, that script, they can then make something, find an audience. We spoke about finding audiences here before. That's typically what they do. So it's really to see, okay, here in Belgium, in Norway, in Portugal, with that story in my hands, can I do something? And then they go for many reasons, because they love the films, the story. They love the author, of course. There is a long tradition of following the same authors. I have released so many films of the Darden brothers and Ken Loach that, and at the end, it's like family. You know them quite well. And then you go for it. So that means that also, of course, you don't receive the film for free. You have to pay for the rights that you have for a certain amount of time and a certain territory and language, and that's where territoriality makes sense. And then it's like you have your bubble where you can release a film with the expertise you have as a distributor. So that means that actually, for example, well, we were mentioning that Belgium was a complicated thing. Actually, I worked for the Benelux, so it was even more complicated. I was in charge for Belgium and Luxembourg, and I had a colleague in charge for the Netherlands. And for example, we would generally, when we were sharing, I was responsible for the sales, but when we were sharing about the sales, or where, in which theaters we would release the film, the marketing, which poster we would use, generally we would have different ideas. We would prefer something, they would prefer something else. And generally, it would be something else than the French poster or the US one. So it's always something where, you know, you have that expertise of the field where you are working on. And, of course, you use that expertise to promote the film, curate the film, find an audience, and hopefully have one. Because, of course, with all this, you have no certainty. You may really believe in a film, put the money on it, do the whatever promotion you can, and then have no one in the theaters. And then if you don't have anyone in the theaters, you don't have anyone anywhere. Because actually, we may be traditional, but actually we don't release only in the cinemas. We generally, independent distributors buy films all rights. So they do release everywhere. But when you want to release a film, and you act as a seller, then you also need a buyer. And that's something that's a place where we may find some problems. It's not because you have a film that everyone wants your film. Of course, when you have a golden pan like The Square, it's a bit easier than when you have a Chinese documentary. And when you have Lord of the Rings 2, it's a lot easier than when you have the one, actually. So you always have to play with that. And for us today, what is for sure is that we are like more traditional, because you hear a lot that now we are making all, you know, admissions in the theaters, but that's not a choice. It's because the rest is gone. So DVD is gone. Well, everyone knows that DVD is gone. Blu-ray never really took. Well, there are still DVDs, but I mean, it's not a proper income. And the problem for the rest is that actually we have still problems to sell to TVs, commercial or public TVs. We have problems to access platforms, or we do access platforms, but people don't know really about them. So it's a very, very vast territory that is a lot linked on promotion. So I think that it's very, 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 very important that, of course, that we have Creative Europe. Without Creative Europe, we wouldn't be able to buy these films or release them. So that's really easy. Without Creative Europe, no circulation. That's smart. Really easy. So it's really, really important. But then indeed, probably promotion has really to become something very, very big, so you attract people. Because the thing is that people not always know, because there are so many things to do apart from cinema. You can also read a book, although I watch TV, but also go to the restaurant, whatever. And that's really nice. But so then you have to attract them. And there is so many things to see. And something I have noticed is that when everyone knows about Netflix, I've heard so many times here in Brussels, people asking me, because I'm the local one, Christine, where can we find a nice platform with independent films? I'm just like, oh, you have that one and that one and that one and that one. And actually, they don't know about it. So I think that's certainly something we need. Is also somehow to brand our independent platforms, so that when we have people, when our audience knows where to go and they want to see a film in a cinema, when they know where to go when they want to see a film on TV, they actually also know where to go when they want to see a film on a platform. And you can do several ones. It's not that you can go only for one. It's not very expensive, a platform. So that's certainly as VOD. So that's something that we could do. I think I've answered so many of your questions that I've lost my own thing. So it's very, very important for us that in order to reach out to people, because you never know if you will have some return on a film you have released. It's very, very important to have support like the media one, or like Unifrance that is linked to the CNC, or German film that is linked to Germany, that are helping somehow to lower the risk. Because the thing is that I was saying before, so that now we release essentially on the theaters, but of course the idea is also to be able to release elsewhere, but for that we need to have buyers, we need to have promotion, and to go on and hopefully go back to what we had before when we were still selling. Because if you are not selling, the problem as a distributor is that if you don't have your money back, you can't go on. That's always a problem with distributors, that they put a lot of money to buy the films, and then there is no money, and you have to go on and keep on buying films, because otherwise, if you have some failures, you're just dead, actually. You need to have always this kind of many things going on, etc. So you have to have the ability to have support to lower the risks. So that's actually what the European Commission and national agencies are doing, but can be certainly improved. Then, of course, because it's a very risky area of business, you can't allow yourself to have more risk. So to go back to your question about territoriality, for us, the thing of territoriality, it is that it's bringing something more on all these risk elements. I'll give you an example. So we are in Belgium. As you said, we are very complicated. We know that. We share languages with many countries around and bigger countries, because France, for example, if you look at Wallonia, that's 4 billion people. France is 60 blah, 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 something million. So the balance is not very right. I mean, there is an imbalance. We haven't annexed France yet. So so the thing is that if you would allow this opening like of the borders on catch-up, the problem is that actually a small Belgian distributor, if he had already the ability to sell to a TV, he will never be able to negotiate something, because anyway what will happen is that probably a bigger distributor in France would allow his French TV to put not to consider the borders online, and he couldn't do anything for that. And the problem is that here, if you look around, actually people already go to see TV in other countries, and so it would be a very natural movement. I'm taking the example of Belgium because, of course, it's the one I know the best. I'm from here. But it is something real that would happen, that you could duplicate with many things. It would be like the first film in English with whatever subtitles put on a TV and catch up somewhere that could be in the accessible everywhere. So the problem is that because when we sell our rights, we need to have a seller, but then we need to have a bit of money. And that would take off our ability also to negotiate some money, because then instead what would be said, and it's concurrence, it's competition, so it's normal. It's just not really, it's very bad for what we do, is that people would say like, the film is already available on Arte, so I'll take it for Belgium, but normally I would take you 10,000. And you have to live with that. But the problem is that the rest doesn't change, so you still have to pay. You still have to pay for your promotion, for your film, for the people that are working for you. Actually, fair remuneration is for everyone in the value chain, because if part of the value chain doesn't work, well, then the value chain doesn't work. That's why it's called value chain. Actually, the etymology of it is very interesting. So probably, I mean, the access, the topic about accessibility is also very much valid for distribution, or probably rights holders to access platform to be able to take their film and buy them. Promotion is also valid. It's our job. We do it. We do it for the release in the cinema, but we do also promotion already for the release, the digital release. Of course, it depends on the country and the agreement and the possibility to pay for that. But what we need also is to know better the VOD world. So we need a lot of transparency, because even us, we don't have figures, actually. So when you give your film to a SVOD platform, you don't have the figures. You don't know. They won't give you the information if you have sold the film, which is, of course, the first point. Yeah. You only have the figures on TVOD, but TVOD for more independent films, And the people I represent, generally, apart from the big commercial exceptions, it's more the films that you will have in Berlin or in Cannes or in Toronto. So you see a bit the kind of, I don't know if you see the kind of film, but Berlin and Cannes, I guess you do. So it's like independent films, arthouse, non-arthouse. So it's, of course, a bit different than the very commercial one. So it would be so good to have an idea of what it represents, what is actually the value of a film, because then also you can negotiate, because now we have no tools to negotiate. So that's also something that is quite complicated. Yeah, pardon. And yeah, and you told me about circulation of the works, but I guess I talked about it. That's our job, actually. When film, and actually, I wanted to just to a last thing. We have heard many times a comparison between European films and American ones. Actually, the problem with these figures is that the base one is not accurate, because you have on one side the American films that were released in Europe. So you don't take into account all the American films that never crossed the ocean, stayed in America, never were sold anywhere else than America. And while in Europe, we are taking all the films. So, of course, it should not when these figures are communicated, they are not comparing the same thing. So it would be interesting to see a little bit if actually the circulation of European works is already very good and could be improved. That's, of course, a certainty. But that maybe actually we are doing better than what we are thinking we do. Voilà.
Merci. Alors ça, c'est un point important, mais peut-être Christophe vous en parlera, Christophe Tardieu, c'est qu'effectivement, les producteurs, distributeurs indépendants n'ont pas accès aux chiffres réalisés par les œuvres sur les plateformes. Alors bizarrement, moi, j'ai accès, parce que bon, pour rémunérer les auteurs, je les rémunère en proportion des résultats qu'ils font, mais c'est un peu à l'aveugle pour les producteurs. C'est même complètement à l'aveugle pour les producteurs distributeurs. Moi, je remercie Christine pour son discours, parce que ça reflète l'amour du cinéma. Parce que vous savez qui est devenu l'homme le plus riche du monde, là, récemment, c'est Jeff Bezos. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait acheté, je crois que c'est 180 millions de dollars, les droits pour faire Le Seigneur des Anneaux, il a répondu parce que ça me permettra de vendre plus de chaussures. Voilà, bon, c'est tout, c'est ça en passant. Hein. Bon. Alors, Christophe Tardieu, donc, est le directeur général du CNC, et il participe aussi à toutes les réunions des CNC européens, puisqu'au fond, il y a des plateformes européennes entre les centres nationaux, enfin, les organismes de soutien. Il est le principal outil de soutien à la politique de la production cinématographique et audiovisuelle. Le CNC, je les en félicite, ont réussi à soumettre aux taxations toutes les plateformes, quasiment, hein, puisque Netflix, c'était il y a 3 ans, il a fallu 2 ans et demi pour avoir l'autorisation de la Commission européenne, et vous y êtes arrivé, parce que je crois que l'Allemagne a fait de même. Dernière loi de finances en France, YouTube, oui, je le dis parce que c'est un exemple qu'il faut essayer de pousser, comme ça, YouTube, sur ses revenus publicitaires, devra contribuer au financement de la création. Et d'ailleurs, le CNC a été très généreux parce qu'il a laissé une grosse place pour que la musique puisse aussi faire de même, si jamais les gens de musique s'entendaient pour faire quelque chose ensemble, ce qui est possible, hein, quand même. Et donc, comment vous voyez un peu, parce que c'est au fond le sujet de la réflexion du Centre national du cinéma, ce basculement progressif de la diffusion traditionnelle de la salle, puis des télévisions, maintenant vers les grandes plateformes numériques. Est-ce que, pour vous, quelles seraient les conditions pour que ce soit une chance pour la création européenne et l'exposition des œuvres européennes?
Merci Pascal. Pour rendre hommage à la commissaire, dont le discours était extrêmement intéressant, je m'exprimerai donc en français, puisque son français était absolument parfait. Je me réjouis de voir le retour du français à la Commission européenne. Avant de répondre, avant de répondre directement à la question de Pascal, je voudrais juste revenir justement sur le discours de la commissaire et de dire à quel point le CNC et, je crois, tous mes collègues des agences du film européen se réjouissent très profondément de ce qu'elle a pu dire, notamment sur le budget du programme Média. Le programme Média est pour nous un programme extrêmement important, un programme extrêmement intéressant, et pour qu'un Français vous dise du bien d'un programme de la Commission européenne, c'est a priori plutôt bon signe. Nous nous étions un peu inquiets des risques de dilution du programme Média dans d'autres programmes de la Commission européenne. Or, ce programme, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que c'est grâce à lui que des films, des œuvres peuvent se faire, mais des œuvres à très forte valeur ajoutée culturelle. Je pense par exemple à une œuvre comme The Square, qui n'est pas une œuvre française, récente Palme d'Or au Festival de Cannes. Je pense à des séries qui sont soutenues par le programme Média. Je pense au réseau de salles à réessais. Donc c'est véritablement un programme extrêmement important et qu'il faut vraiment protéger des volontés de coupes budgétaires. Il y a manifestement ici des budgétaires qui aiment bien tout couper. Bon, rassurez-vous, en France, on a aussi un peu les mêmes. Mais autant il y a parfois des choses utiles de couper, autant lorsqu'on a un programme de cette qualité, ce serait vraiment dommage de le remettre en cause. Et donc, j'espère que, j'en suis sûr d'ailleurs, que la commissaire sera entendue pour le soutien financier du programme Média et surtout, la pire des choses, c'est éviter la dilution dans d'autres opérations. Après, naturellement, Lucia l'a dit tout à l'heure, il faut que ce programme évolue, il n'est pas parfait, aucun programme d'ailleurs de soutien n'est parfait, ils doivent évoluer en permanence en fonction de l'environnement, en fonction des règles, et donc naturellement le programme Média en ce sens évolue de façon extrêmement, extrêmement pertinente. Alors, l'évolution de l'environnement, Pascal l'a dit, est une évolution aujourd'hui totalement systémique. Si l'on revient, il y a 10 ou 15 ans, Netflix, c'était tout simplement des DVD qu'on mettait dans une boîte aux lettres et qu'on récupérait à un autre moment. Bon, aujourd'hui, on voit bien le poids que cette plateforme a pu prendre. Et donc, dès que des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants prennent un poids financier, culturel, important, il est indispensable d'avoir des règles pour éviter des positions dominantes, pour éviter des abus, pour éviter l'écrasement de la concurrence qui, à terme, viendrait porter atteinte à la diversité culturelle. Or, la diversité culturelle, si nous sommes en ce magnifique jour de janvier ici à Bruxelles, c'est bien ce qui nous motive tous. C'est cette volonté de promouvoir cette diversité culturelle qui a fait, depuis des centaines et des centaines d'années, la richesse de notre continent. Il est sûr que lorsqu'on voit, alors parfois les meilleures intentions du monde peuvent avoir des effets extraordinairement pervers, ben, on a beaucoup parlé de territorialité, nous c'est sûr que le principe de territorialité c'est un point sur lequel on considère qu'il est utile d'y réfléchir à deux fois avant d'y porter atteinte. Porter atteinte à la territorialité, c'est détruire de la valeur et c'est favoriser les plus forts. Est-ce que c'est vraiment ce que nous cherchons en matière de diversité culturelle? Je n'en suis pas sûr. Les nouvelles règles qui sont en train de se mettre en place nous paraissent extrêmement encourageantes. La possibilité de taxer les plateformes dans le pays de destination ou de consommation, c'est naturellement un point extrêmement important. Pascal l'a souligné, nous avons mis en place, la France a mis en place une taxation sur Netflix, la France a mis en place également une taxation sur YouTube et sur d'autres plateformes gratuites qui utilisent beaucoup de la vidéo, tout ça depuis le 1er janvier dernier, et c'est évident que nous serons ravis de partager cette expérience avec nos collègues des agences des films européens qui auront éventuellement un jour envie de mettre en place un système de ce type et qui nous paraît, Pascal l'a dit tout à l'heure, un système extrêmement vertueux. On regrette, peut-être, que s'il est possible d'utiliser le principe du pays de destination pour des services non linéaires, pour des plateformes, on regrette peut-être qu'on n'ait pas la même exception pour les services linéaires. Je pense par exemple à un acteur français qui s'est installé dans un magnifique pays, c'est pas Madame Reding qui me dira le contraire, le Luxembourg, et d'où il émet son service linéaire. Sûrement est-ce pour la météorologie, la gastronomie du Luxembourg. Y a-t-il d'autres raisons? Je ne sais pas. Mais ce qui est dommage, c'est que ce service, qui émet essentiellement vers la France, ne puisse pas faire l'objet d'une taxation au profit du CNC, à l'instar de YouTube ou de Netflix. C'est peut-être un point qui est un peu regrettable. Alors, bien évidemment, tout cela, on sait très bien que ce sont des discussions compliquées. L'obligation d'exposition des œuvres évoquées dans la directive, Pascal l'a dit tout à l'heure, 30%, bon, certains disent c'est toujours mieux que 20, mais d'autres disent c'est moins bien que 40. Moi, je ne vais pas m'en plaindre, puisque c'est notre ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, qui, avec sa collègue allemande, l'a réussi à l'arracher lors des dernières discussions au mois de mai dernier. Il est évident que faire mieux en la matière serait souhaitable. C'est pas uniquement dans une optique soit défensive, soit arc-boutée sur une exception culturelle. C'est tout simplement que, et ça nous le croyons très fortement, c'est aussi l'intérêt de ces plateformes et de ces diffuseurs de favoriser la diversité culturelle. C'est aussi l'intérêt de ces plateformes internationales d'exposer mieux et davantage des œuvres européennes. C'est aussi grâce à cela que ces plateformes gagneront de nouveaux abonnés, gagneront en profondeur de catalogue et, d'une certaine manière, en mettant en œuvre ces obligations, eh bien, nous avons le sentiment que nous leur rendons service. Peut-être qu'elles n'en ont pas véritablement l'impression, mais en tout cas, c'est notre conviction profonde. Et je terminerai, parce que je ne voudrais vraiment pas être long, on a beaucoup parlé d'exposition des œuvres. On a mis en place une petite initiative au CNC qui nous satisfait plutôt pas mal, puisque, en effet, bon, on est tous très concernés par la lutte contre le piratage, qui est un véritable fléau, un cancer qui ruine nos industries. Mais en même temps, c'est vrai que lorsque des gens disent « bah oui, mais je pirate parce que je ne sais pas où je peux trouver tel ou tel film ou telle série ». Donc on a réfléchi à créer un petit moteur de recherche qui en deux clics sur Internet, c'est très simple, qui en deux clics vous permet d'aboutir à l'offre légale existante sur une œuvre donnée. Il y a plus de 65 000 films et œuvres qui sont répertoriés. Ça vous donne immédiatement accès à l'offre légale existante, toutes les plateformes qui proposent le film ou l'œuvre en question, le prix, naturellement, et puis après, vous rentrez dans le processus de transaction du site en question. Mais en tout cas, ça nous apparaissait être une initiative modeste, hein, bien sûr, mais qui est pour nous relativement importante parce que c'est aussi la démonstration qu'il est possible sur Internet aujourd'hui, en deux clics, d'arriver à l'offre légale. Et donc, l'excuse de dire « je pirate parce que j'ai pas pu trouver l'œuvre », elle est là. L'autre point, c'est que nous avons aussi, dans la dernière loi, et ça Pascal l'a rappelé, et ça c'est un sujet extrêmement important, nous avons mis en place un système d'exploitation suivie des œuvres, parce que, en effet, il n'est pas normal, ça n'arrive pas, donc, mais c'est quand même mieux de mettre un principe là-dessus, eh bien, il n'est pas normal que des producteurs ou des détenteurs de droits puissent s'asseoir sur une œuvre et refuser que cette dernière soit exploitée. Donc, on a mis en place une incitation assez forte à ce que ces exploitations aient lieu. Ça fait partie des mécanismes d'incitation qui nous paraissent importants parce que, naturellement, bah, là encore, et j'en conclurai par là, ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos œuvres, que vos œuvres puissent être vues, puissent circuler et surtout puissent être exploitées parce que c'est avec l'argent gagné sur ces œuvres que pourront être financées les suivantes. Merci.
Merci Christophe. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés à aller sur le site cnc.fr vous avez plusieurs entrées, hein, soit le nom du réalisateur, soit le nom d'un artiste-interprète, soit le titre du film. Et vous savez s'il est disponible en DVD, en vidéo à demande, à l'acte, enfin voilà. Et je remercie surtout le CNC de l'avoir fait, parce que ça m'a permis de convaincre les parlementaires que la moitié des œuvres qui étaient sur le site n'étant pas disponibles, de mettre en place cette obligation d'exploitation suivie. C'était le meilleur argument pour aboutir à ce vote unanime du Parlement français. Je conseille à tous ceux qui voient des œuvres non exploitées de se battre auprès de leur pouvoir public pour obtenir la même législation que l'Europe d'ailleurs devrait promouvoir si elle se battait un peu plus là pour que les œuvres puissent être vues. Voilà. Je vais donner maintenant pour conclure la parole à Viviane Reding. Je ne sais pas ce qu'elle a retenu de tous ces débats. Certainement elle a retenu beaucoup de choses. Et je la remercie encore avant sa conclusion, vraiment pour tout ce qu'elle a fait pour la création européenne et l'époque où elle était aux rencontres de Beaune. Elle a soulevé les passions chez les créateurs parce que elle a défendu avec ferveur le droit de la création et surtout après l'avoir défendu, elle a obtenu les résultats concrets de la Commission et du Parlement. Voilà.
Oui, merci Pascal. On ne fait jamais les choses seules. On les fait toujours avec beaucoup d'énergie, d'idées, de discussions parfois aussi, mais ensemble pour le même objectif. Et je voudrais continuer pour la diversité culturelle en anglais après, mais juste un mot sur RTL.
C'est Altice.
Je pensais que c'était RTL.
Non, c'est Altice, c'est pas du tout RTL.
Non, parce que RTL n'est pas une plateforme, mais première radio qui a été créée dans les années 50, autre siècle.
C'est ce dont il vaut mieux ne pas avoir les actions.
Et profiter de l'uplink pour faire du multilinguisme. Magnifique expérience. C'est ça. So, we are in the year of the cultural heritage. And actually what we have heard today was a lot of respect with different means on how this cultural heritage can not only be preserved for what we got in the past, but also preserved of what we have today, because that will be our past tomorrow. And so I was feeling very moved for one element which got nearly a unanimity in the two discussions, and that is the media program and Europa Cinema and what it has managed to do and how it has managed to preserve the appetite, the happiness to share a film in a cinema. And Europeans have, due to Europa Cinema, managed to have this done. And then we were speaking about the platforms, which is a completely new way of promoting the works, and maybe not all the works, because if I see what is, and I have the figures of 2016, only 23% of the works on video on demand platforms are European works, 61% are American works, and 14% foreign productions. So that doesn't do. And now, what to do if it doesn't do? Well, then you find a solution. And maybe the success story of Media Europa Cinema can lead us to have some kind of Europa Cinema for European platforms. And thank you for the idea of the CNC. You see, many ideas put together might have a new system which will help those who are eager
to see the film they have heard about, and we must do that they hear about the film they are going to want to see, that they can do it also on platforms if the film is not available in the cinema theatres anymore. So I would like to thank also the commissioner for having brought forward this idea of having a depository of works and a platform for film heritage. It is very timely, not only because it is it's a year of cultural heritage, but also because it is 10 years since I developed Europeana. Now I see all the question marks in your eyes. Who still remembers what Europeana is? Well, it was, I think, the first platform for cultural goods which had ever been developed in Europe by the Commission in the year 2008. Today it has more than 51 million of artworks, artifacts, books, videos, and sounds from across Europe. And there I must say, not because there are so many friends here, but the first one to help me in order to have the pieces of art on Europeana were the French. So, and now the French have this idea of the CNC with the moteur de recherche pour une offre légale. Well, that might really help us to create this European platform for heritage, but in a second step also for the works of art now. And then I have heard what Madame Eloy has told us about the difficulty also to have a promotion of the film, because it's true. You are attracted to go to see a film because there is a promotion, and I must say for the young generation very often because friends have seen the film and they thought it was nice, because they don't believe so much, for instance, in this all the battage commercial anymore. So we have to see in which way we can do a new kind of promotion for European films on European platforms, can be platforms being put together. It could be a platform also. Well, that I leave it to the professionals, because you are the one who know, and the fact that the commissioner has come here today and spoken not about technology, but about the content which the technology brings to us is a real moment of hope. So you see, the work which has been done over decades by generations for the sake of our cultural heritage is a work which continues. And I think that the feeling, the knowledge, what we are has a lot to do, and there I applaud to what is done by the public broadcasters. It has a lot to do with the roots. But the roots are only valuable if I can share them with others and if I can utilize the roots of the others. So that is the cultural diversity of Europe, which is not going against the roots, but we have to put all this wealth of roots to a platform so that everybody can profit of this wealth. A lot to do. The ways and means, the technological development today is different than what I had at my disposal in 2008, where we were quite at the beginning of the digital development. Now we are in a digital world, and we should utilize it. We should utilize it for bringing around what we are. And nobody can, and that is another French who has said it, Jacques Delors, nobody can fall in love with a market or with a euro, but you can really fall in love with a European film. And that is exactly the message we should give out to this young generation, which will be eager to follow us if they know that there is a way to follow and to proceed us precede us and by doing things. And because we never do things alone, because we always do them by exchanging, by learning the one from the other, there is maybe somebody there in the audience who has a very good idea which we haven't heard, because only the people up here were speaking. But now we thought it would be very nice if all these questions, which you are frustrated